Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode un tout petit peu plus long que d'habitude de Comics Weekly, car nous avons énormément de reviews cette semaine. On va parler chez DC notamment du Aquaman, du Superman, de Justice League Dark ou encore de Red Lanterns. Du côté indé, nous verrons Chou, Planétoïde, MacGyver. Et enfin, du côté de chez Marvel, nous continuerons avec les sorties Marvel Now et la suite de Thor, d'Uncanny Avengers qui est enfin arrivée, All New X-Men et bien d'autres encore. Je suis Steve et vous écoutez le 123e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 29 novembre et avec moi pour commenter les sorties de la semaine, Corwin.
Bonjour.
Sam.
Bonjour.
Kinghead.
Bonsoir à toutes et tous.
Et Mister René Bunny.
Bonjour à toutes et tous, pour faire un petit mix.
Le mec, il a tellement plus d'intro qu'il est obligé de copier celle de toutes les autres.
Mais non, il a pas de créativité, c'est pour ça.
Moi, j'avais essayé de défendre Bunny en disant qu'il avait plus d'intro, ce qu'ils avaient tout épuisé depuis le temps, mais...
Ah bah oui, bah voilà, exactement. C'est depuis le temps. J'ai juste un petit peu plus de podcasts que vous.
Oh, genre, comment il se la pète.
Ouais, il se la raconte,
là. Ouais, bah dans 100 podcasts, au moins, vous pourrez dire que vous en avez fait autant que moi. Et encore. Faudra vérifier parce que je pense que vous serez encore loin du compte.
Crâneur.
Ah ouais. Vous êtes loin du maître, les enfants.
Ouais.
Voilà. Oui,
c'est pour ça que j'ai des privilèges, hein. C'est comme dans toutes les boîtes, quand on arrive avant les autres, eh ben, on a plus de privilèges. Moi, par exemple, je peux me servir dans la caisse, la fameuse caisse, l'argent, hein,
La caisse noire.
Ouais.
Allez, on commence les reviews de la semaine avec la sortie du Aquaman numéro 14, scénarisé toujours par Geoff Jones, avec cette fois-ci au dessin Pete Woods, accompagné de Pere Perez. Et à l'ancrage, nous avons Marlo Alquiza, Rui Rosé, Sean Parsons, Pere Perez et Cam Smith. Tout ça pour nous faire un Aquaman qui, bien sûr, même si c'est très très sympa hein, au niveau dessin, ce n'est pas du Ivan Reis.
C'est très classique.
Et ça se ressent, je trouve.
Ouais, c'est vraiment bon.
Au moins, il y a du texte dans celui-ci, déjà, c'est quelque chose.
Évidemment, c'est 20 pages de gens qui parlent, donc oui, il y a du texte.
Ah bah oui, non, mais pour une fois, la part belle, certes,
enfin,
n'est pas mise au dessin.
On en avait déjà eu certains épisodes avec du texte, autant que là, et j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait une abondance de texte phénoménale. Hein. Il y a un peu plus de texte que dernièrement, mais bon, se lit quand même relativement vite. Hein.
Comparé aux 5 derniers épisodes qu'on lisait 5 minutes montre en main, celui-ci, il a fallu 7, quoi.
Ouais, voilà,
ouais,
c'est ça.
Une amélioration,
ouais.
Quand même.
Ouais.
Non,
10 minutes,
ouais,
10 minutes, allez.
Une dizaine de minutes, ouais.
Ouais.
Bah, déjà, pour du Aquaman, c'est un exploit, hein. On a l'impression d'avoir un épisode double.
Donc... Ouais, non, enfin...
Je suis un peu médisant, mais... Non, je suis un peu médisant, mais c'est vrai que le problème de Aquaman, on le dit, on le répète, c'est que c'est une très bonne lecture en trade. Et en single, c'est relativement chiant parce qu'il se passe rien. Ou quand il commence à se passer quelque chose, c'est la suite le mois prochain. Donc à chaque fois, on est un petit peu dans l'attente et quand ça démarre, on se retrouve sans rien. Bah, donc dans celui-ci, déjà, c'est le prélude à ce fameux crossover entre Aquaman et la Justice League qui s'appellera Throne of Atlantis. Et on nous raconte une espèce d'histoire sur ce qui s'est passé avec Aquaman et pourquoi le nouveau roi de l'Atlantis n'aime pas les gens de la surface.
Ou pourquoi il les attaque pas plutôt.
Ouais, parce qu'il a l'air plutôt sympathique, hein, ce frère d'Aquaman, pour l'instant.
C'est quand même le gros exploit de l'épisode, c'est qu'il arrive à donner un minimum de charisme à un des ennemis les plus ridicules de l'univers DC, qui est Ocean Master. Donc c'est déjà un petit exploit en soi.
Bah, moi je trouve que le charisme il vient surtout du fait qu'on ne le voit que dans les ombres et
oui.
On ne le voit jamais.
C'est ça.
Donc,
et ça contraste avec son discours en plus, qui est très, très très posé, très quasi pacifique, très amical avec son frère. Donc très...
Oui, enfin il lui dit pas tout. Hein.
Mm. Oui. Et ça renforce le fait qu'on a bien l'impression qu'il a quelque chose à cacher, qu'il ourdit des plans dans l'ombre.
Mais bon, enfin, je trouve pas vraiment que ce soit un exploit de lui donner du charisme, puisqu'on repart vraiment de zéro, hein, quand même, faut dire.
Oui, mais pour quiconque connaissait Ocean Master, c'est clair que
c'est pas le plus grand
ennemi de l'univers.
Ouais.
Quoi.
Enfin, maintenant, c'est plus le même, quoi, tout simplement. Voilà.
C'est comme pour Black Manta, hein, où ils l'ont rendu beaucoup plus badass ces dernières années, hein, par rapport à avant. Hein.
Black Manta qui refait une apparition d'ailleurs dans cet épisode.
D'ailleurs, grâce, ça fait un petit peu Aftermath et en même temps prologue du coup. Ça fait vraiment, pour moi, c'est vraiment un épisode de transition entre les deux arcs qu'on va avoir.
Ah, on apprend surtout qu'il veut que Amanda Waller veut le recruter pour son Suicide Squad. Alors, y arrivera-t-elle et acceptera-t-il
Manifestement non. Je spoil, donc non. Disons qu'il n'est pas super convaincu.
C'était justement pour éviter le spoil au départ, en fait.
Mais on s'en fout, oh là là.
Ah non, on s'en fout pas.
Ah bah non, non, on s'en fout pas, non, non.
Mais personne ne lit Suicide Squad à part...
Bah non, pas du tout, Sam, voyons. Suicide Squad...
Mais à part toi, personne ne lit.
Moi, je me suis mis, c'est plutôt sympa.
Oui,
voilà, pour reprendre...
Exactement.
Et il faudrait que les auditeurs disent dans les commentaires que
moi
Sam,
je trouve que moi j'aime bien quand justement dans DC ils font cet effort d'essayer de montrer justement des
interconnexions
entre différentes séries. Mmh. Et moi à chaque fois ça me fait plaisir de voir ces petites touches justement.
Il faut s'arrêter sur le mot de Corwin, poditeur.
Bah oui. Un auditeur de podcast, c'est un poditeur.
C'est un poditeur.
Ouais. Oui, mais on ne le dit pas assez. Voilà.
C'est vrai.
Poditeur.
Mais justement Corwin, qu'as-tu pensé toi de l'épisode?
Mais moi j'ai bien aimé dans l'ensemble parce que ça avance, y a des choses qui se mettent en place pour la suite. Donc j'ai zappé l'arc précédent. Je m'y suis mis là direct, j'ai plongé dans celui-là. Donc il me reste quelques épisodes à rattraper.
Ah, pour Aquaman, c'est une bonne chose.
Oui, c'est plonger, une bonne chose. Non, voilà, il me manque 6 épisodes à lire que je vais vite rattraper, mais là vu que c'était le début de l'arc, je me le suis permis qu'on arrive à prendre facilement le train en marche si on connaît un petit peu. Les dessins, c'est pas du Ivan Reis, mais ça se laisse quand même regarder aussi. Je trouvais ça assez bien.
Ah oui, non, mais les dessins sont
sympas,
mais c'est
vrai. C'est un cran en dessous.
Bah oui, voilà, c'est pas Ivan Reis, quoi.
Mais c'est quand même joli, quoi. Et puis non, moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cette Ocean Master, voir ce qu'il va faire, comment il va mettre des bâtons dans les roues à son frère. Enfin,
voilà. Des tridents.
Oui.
Il va lui mettre des tridents dans les palmes. Voilà, ça, c'était la vanne du soir. Bonsoir.
Non, mais c'était super drôle. Mon rire restait coincé tellement il a failli sortir très fort.
Tu ris, voilà, mais à l'intérieur, en fait, c'est ça.
Ouais, voilà, tu ris à l'intérieur.
Intérieurement, c'est tout un concert de rire.
T'es un peu un Jean-Claude Van Damme, quoi.
Voilà. Mais non, bah, pour moi, bof, quoi. Cet épisode m'a pas scotché, sans plus, quoi. On a l'impression que c'est la version Thor Loki de DC. Ouais. Faut voir, mais... Bof, bof, hein, franchement, le fait que Ivan Reis soit parti, ça m'a vraiment laissé un peu sur ma faim.
Ok, donc si vous n'avez rien à rajouter, vos notes
Pour moi, c'est un check-it plus. Un épisode
ouais,
de transition.
Pareil, un check-it plus.
Également, un check-it plus, hein. Mais bien plus.
Idem.
Pour moi, ce sera un petit bail, parce que l'épisode est sympathique et que ça remonte le niveau des singles. Voilà, je précise bien des singles. On continue avec la sortie du Superman numéro 14, qui lui aussi entame le crossover. C'est Bunny qui va nous en parler.
Ouais, alors le Superman numéro 14, qui est écrit par Scott Lobdell, au dessin c'est Kenneth Rocafort. Bon, je donne pas tout la liste des encreurs, mais alors franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un épisode très sympathique. Mais alors il y a juste un gros souci, c'est que ça démarre pas du tout là où on a laissé la série dans le numéro 13. Et j'ai essayé de voir si ça correspondait à la fin de Supergirl ou de Superboy, et bah non.
Ah bah si. C'est exactement la fin de Supergirl numéro 14. Et c'est vraiment un event, enfin Hell on Earth, où il faut vraiment lire Superman, Superboy, Supergirl, Superman,
oui,
Superboy,
oui, non, Supergirl. attends, non, tu m'as pas compris. Ça correspond à la fin de Supergirl numéro 13, mais la fin de Superman 13, on la retrouve nulle part.
Bah si, on la trouve dans Supergirl numéro 14.
Donc, non, je t'assure. Mais... Non. Au début, ils sont dans une antre avec le dragon, etc., qui est en train de se faire dépecer. On avait arrêté le Superman 13 avec l'arrivée de Hell devant Superman Supergirl.
Hell, oui, mais c'est parce qu'en fait, Hell, parmi ses pouvoirs, il a le fait de pouvoir contrôler un petit peu la réalité. Et en fait, il apparaissait pas aux deux personnages. Il le voyait pas à ce moment-là. Et en fait, la suite, c'était quand ils sont allés analyser...
C'est expliqué, ça, parce que...
Ils sont allés analyser le monstre avec le docteur qui travaille avec Superman.
Et, ah, mais c'est expliqué qu'ils le voyaient pas ?
Bah, c'est expliqué quand on voit quels sont les pouvoirs, justement, de ce fameux L, qui a à la fois des capacités un petit peu comme Superboy de télékinésie, et également des capacités à changer un petit peu la perception des gens. Et donc, on peut l'imaginer comme ça.
Ouais, c'est un peu mal foutu. Enfin bon, d'accord. On va dire que c'est ça. Alors bon, la rencontre, en fait, l'épisode démarre sur Supergirl qui rentre chez Clark Kent. Et Clark Kent est en grande discussion avec Lois. Donc c'est assez drôle parce que Lois soupçonne Clark de sortir avec une autre nana. Et Supergirl débarque, l'air de rien. Et du coup, Lois prend Supergirl pour une nana qui fait du cosplay.
Ouais, c'est assez amusant ce petit dialogue.
Et alors là par contre, vous allez me prendre pour un teubé, mais j'avais complètement oublié que dans les New 52, Lois Lane donc ne sait pas que Clark est Superman.
Ah, des réminiscences du passé.
Par contre, on apprend des choses un petit peu sur la relation entre Clark et Lois.
Oui, mais
dans
depuis
les 5
quand
ans
on sait
qui
que...
sont passés, ils ont fricoté un peu quand même.
Non mais aidez-moi, depuis quand on sait qu'elle sait pas?
Depuis le New 52.
Mais c'est dit dans quel épisode?
En fait, étant donné qu'ils ne sont plus ensemble.
Oui, puis ils sont sortis ensemble à un moment, on a l'impression.
Oui,
mais
ils n'ont jamais été mariés, donc.
Voilà. Mais
faut
par contre,
rappeler que ce Superman avait annoncé son identité pas longtemps avant de la demander en fiançailles, en mariage, qu'il se soit fiancé.
Et dans les New 52, en fait, si on lit Superman, on se rend compte à un moment que Lois se pose des questions sur Clark, et ça montre bien qu'elle connaît pas son identité puisqu'elle enquête sur lui, en fait.
D'accord. Mais comme moi, j'ai loupé des épisodes parce qu'il affrontait Hellspont et que j'en avais rien à foutre.
Ouais.
Bon, voilà. Mais ok. Alors ensuite, on en apprend plus justement sur Elle, qui fait son apparition, qui se révèle à Superman. Et ses origines sont pas folichonnes. Bon, j'attends de voir un peu la suite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une grosse baston ensuite. Superboy aussi est de la partie puisque elle lui avait cassé la figure dans le dernier épisode de Superboy. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa quoi. Dans l'ensemble, c'est il y a de bons dialogues, il y a de l'action, il y a de l'humour aussi, beaucoup d'humour je trouve dans le Superman de Scott Lobdell. Donc non, moi je boude pas mon plaisir. C'est vraiment sympa cette lecture. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine d'ailleurs. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas mon coup de cœur, je me gourre en plus. Ça aurait pu être mon coup de cœur, mais ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est un bon bail.
Ouais, pour moi, c'est aussi un très bon moment, une bonne lecture. Comme tu dis, les dialogues de Scott Lobdell sont assez sympas. On voit un Clark Kent beaucoup plus humain dans sa façon dont il gère les relations intimes, puisqu'il montre un petit peu de jalousie, même par moments, ce qui est, je trouvais, bien retranscrit dans le comics. Et justement, parlant de Elle, je trouve ça intéressant, j'avais peur que ce soit une ressucée de Superboy Prime, et finalement, ses origines sont complètement différentes. Et j'ai envie de lire la suite du crossover. Pour moi, c'est un bon bail aussi. Et Hero Cafort, c'est toujours aussi beau. Et c'est lui qui s'ancre, hein, donc il fait tout le boulot.
Ouais.
Allez, on continue avec la sortie du numéro 14 de Flash Sam.
Oui, toujours écrit par Francis Manapoul et Brian Muxilato, et dessiné par Francis Manapoul en intégralité. Donc, suite de l'arc qui voit Gorilla Grodd envahir Central City. Et grosse baston entre Gorilla Grodd et Flash. Voilà, enfin.
Voyons, ça donne envie.
Ouais, non, mais c'est un Sam qui est absolument pas motivé ce soir, j'ai l'impression, surtout.
Non, mais il se passe pas grand chose.
Il se passe énormément de choses, honnêtement. En termes d'histoire, il se passe énormément de choses. Oui, c'est une baston entre Flash et Gorilla Grodd qui détient des pouvoirs de la Speed Force. Mais Francis Manapoul et Brian Buccellato nous font avancer tout un tas de plots en même temps. On avance sur l'histoire avec Iris, puisqu'on voit qu'il y a toujours
une page.
Speed Force.
Ouais, mais, on avance pas du tout, hein, ça reste là où c'en était.
Mais que son frère la cherche, rappelez-vous.
Oui, comme
frère...
avant dans l'épisode précédent, donc ça change rien.
Oui, sauf qu'il a vu qu'elle était disparue depuis longtemps.
Oui, merci de nous prendre un épisode pour ça.
Mais ça prend pas un épisode.
Voilà, donc mais je te dis, pour moi c'est un épisode qui avance pas.
Oh là
ça,
là,
reste ça reste agréable à lire, mais ça avance pas.
Ouais, bon, t'as le droit. Enfin, moi j'ai trouvé l'épisode très très bon, pour moi c'est un très gros bail. Un épisode où on avance bien, où on a plein de révélations, on a aussi l'histoire sur Barry Allen et sa copine Patty Pivot qui avance aussi, et une fin qui laisse poser pas mal de questions, qui fait rappel à des épisodes précédents de Flash. Donc non, franchement, pour moi, un très bon épisode et un gros bail.
Bah moi, ce sera à peine un check-it.
On continue avec la Justice League Dark Kinghead.
Oui, avec toujours Jeff Lemire au scénario. Et au dessin, on a un autre artiste, Graham Nolan. Donc un épisode un peu de transition, là encore, comme pour Aquaman, puisque on a un peu l'aftermath de ce qui s'est passé avec le Docteur Mist et compagnie, Faust et compagnie. Et on a surtout un Constantine qui est très préoccupé parce que Zatanna a disparu avec justement le... comment il s'appelle le petit garçon là, j'ai oublié son nom. Et donc c'est un peu le bordel. Il demande l'aide de Steve Trevor pour essayer de la retrouver. En parallèle, on a toute l'équipe de la Justice League Dark, enfin les personnages comme comme justement Frankenstein et Améthyste qui sont dans la House of Mystery et qui se baladent à l'intérieur et qui se retrouvent un petit peu dans une maison un peu hantée. J'ai pas trouvé cet épisode hyper passionnant.
Surtout
la partie dans la maison, la House of Mystery.
Ça n'est là que pour amener la révélation de ce que fait Constantine en secret. Voilà.
Ouais,
c'est
voilà,
juste pour ça.
Donc du coup, ça fait vraiment un épisode de transition. Il y a juste vers la fin où je trouve que c'est intéressant puisqu'on a le côté un petit peu Trinity War qui est évoqué.
Bah justement, ça, moi, ça m'a fait sortir du truc parce que Trinity War, j'en ai rien à péter. Donc.
Ouais, mais moi, ce crossover m'intéresse. Donc ça, j'ai trouvé
t'es bien
ça
le seul.
Mal. Et bah le côté des il y a un petit truc sympa, ouais, voilà, comme tu dis Sam, où on a aussi un tableau général avec plein d'indices,
voilà,
sur les
Nourfond 52,
sur les futurs
le premier arc d'Avengers, ouais. Enfin tout le truc que Marvel et DC font depuis 3 ans, c'est-à-dire à un moment ou à un autre on a un gros tableau avec
pardon, excuse-moi, vas-y.
Vas-y, non, vas-y.
Je disais, le premier arc d'Avengers, c'était juste Brian Bendis qui avait piqué l'idée de Geoff Jones déjà dans 52,
voilà.
Et donc
qu'il avait déjà piqué à Lost.
Mais là c'est Constantine un peu.
Faudrait vérifier le moment où c'est sorti, enfin où c'était dans Lost. Et
je crois que c'était dans Lost avant.
D'accord, ouais. Bah c'est possible. Hein, comme j'ai pas regardé la série, c'est pour ça que je dis faudrait vérifier parce que je sais pas.
Mais c'est Constantine qui fait des fiches sur tout le monde, quoi. C'est un peu comme ce qu'avait fait Batman à un moment. Donc voilà, mais c'est marrant du coup. Il y a pas mal de petites choses à regarder, des petits clins d'œil. Bon, c'est un épisode de transition. C'est pas le meilleur épisode de Justice League Dark. Au niveau des dessins en plus, c'est beaucoup moins bon que Michael Ranin, même si ça se laisse regarder. Donc pour moi, c'est juste un check-it.
On pourra toujours trouver des exemples de toute façon de choses comme ça, même avant. Hein. Je pense qu'avant Lost, il y a eu d'autres trucs de science-fiction quand même.
Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Sam, ta note ?
Un petit check-it, on va dire.
Tout petit.
Parce qu'effectivement, ça. Je dirais, le problème, c'est que l'intrigue sur laquelle nous a laissé l'annuel n'avance pas du tout. C'est-à-dire qu'on en est au même point à la fin qu'au début. C'est le gros reproche de l'épisode.
Ok. On continue donc avec toi, Sam, qui, à mon avis, sera plus enjoué puisque c'est la sortie du 5e numéro de Batman Inc.
Oui, donc toujours scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Chris Burnham. Donc un épisode où, en fait, Batman nous explique ce qu'il a vu lorsqu'il a voyagé dans le temps, puisque depuis le début de la série Batman Inc, il nous dit qu'il a vu le futur et que c'était apocalyptique. Et en fait, ce qu'il a vu, c'était l'avenir de Gotham City qu'on avait vu dans Batman 666.
Non, c'était Doop qu'il a vu.
C'est ce que j'étais en train de penser. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu dans l'espace, comme Lorna ?
Voilà. Bye. Donc c'est vrai que c'est un bon retour de cette idée que Grant Morrison avait posée très tôt dans son run. Donc on voit en fait que il lit tout ce qu'il avait fait sur la série depuis quasiment 7 ans maintenant, sachant que le Batman 666 est sorti lors de sa première année sur le titre, donc ça nous ramène.
Ouais, enfin s'il avait pu oublier cette idée, moi ça m'aurait arrangé parce que j'aimais pas
non.
Du tout.
Ben, moi j'ai adoré. Donc en fait là c'est vraiment la chute en fait de Gotham City telle qu'il l'a vu dans l'avenir, avec Damian en Batman qui se plante complètement. C'est vraiment très bon, graphiquement c'est toujours superbe, donc pour moi c'est un bail.
Ouais, enfin, alors moi je l'ai lu aussi, l'idée du Batman du futur, il la ressort tous les 10 numéros parce qu'en réalité ça fait peut-être 7 ans, mais il a eu tellement de retard.
C'est sorti que deux fois avant.
Non mais de toute façon il y a tellement de retard sur cette série et sur les titres Batman général par Grant Morrison.
La vision du futur on ne l'a eu que dans le 666 et le Batman 700, c'est tout.
Ouais, mais de toute façon, entre le Batman 700 et maintenant, il n'y a pas eu tant de numéros que ça. Hein, tu sais,
ça fait plus de deux ans.
Le premier volume de Batman Inc., il y a eu quoi ? Il y a eu 10 numéros, 12, je sais plus.
8.
8, tu vois, c'est encore moins. Et là, on en est qu'au numéro 5. Bon, il n'a pas fait grand-chose non plus. Hein,
plus un épisode spécial, donc.
Puis bon, alors à chaque fois, il nous sort des trucs du futur ou de tirer d'un monde parallèle. Mais il répond pas aux questions les plus importantes, genre il y a Gordon qui arrive au début de l'épisode et qui fait « Ouais, qu'est-ce qui se passe, Nightwing et tout ?» Mais Gordon, il devrait être furieux que Bruce Wayne monte sa propre armée de Batman tranquillement, et ça, il l'a jamais développé, quoi. C'est
pourquoi
un truc que
pourquoi
tout à fait normal.
Furieux
ah bah, je sais pas, non, mais le mec, tranquille, il se substitue totalement à la police.
Bah, ça fait quand même 10 ans qu'il le fait, enfin 5 ans dans l'univers DC maintenant, donc voilà, c'est
pas
franchement nouveau,
que...
hein.
Ça fait pas 5 ans qu'on sait que Bruce Wayne finance Batman, ça fait juste depuis 2010.
Ouais, mais ça fait depuis... non, mais dans l'univers DC, ça fait 5 ans que Batman existe, et ça fait 5 ans qu'il se substitue à la police.
7.
Ouais, 7, on va dire, on va pousser à 7. Mais
Ah oui,
voilà,
non, mais.
ça fait déjà des années qu'il a des activités
Non, non, non,
parallèles à
mais
la
c'est tout
police et qu'il se
récent
justifie
dans
tout le temps.
l'univers DC le fait que Bruce Wayne l'ait révélé au grand jour. Oui, je suis Bruce Wayne, je finance Batman,
Ouais,
et
ah
je
oui, mais à ce moment-là,
finance.
Doc Gordon devrait être furieux que la Justice League existe, que tout groupe de super-héros existe. C'est
Ah non, non, mais ça
idiot
n'a
comme
rien à
remarque.
voir. Ça n'a rien à voir. Le fait que Bruce Wayne, qui est un mec de Gotham City, décide de se substituer à la police pour régler ses problèmes lui-même et sa propre armée comme ça, c'est pas du tout la
Ouais.
Justice League qui est chapeautée quand même par le gouvernement, etc. Quoi. Il y a
Ah non,
Steve
la Justice League,
Trevor.
c'est indépendant,
Mais à la base, il y a quand même des gens qui les surveillent, quoi. Un
hein. Ouais,
minimum.
bof. Faut dire la police de Gotham est tellement efficace que
Enfin bon,
c'est un vieux débat,
c'est.
hein.
Ouais, enfin moi c'est un truc qui me semble aberrant quoi. À chaque fois que je lis Batman Inc.
Voilà, donc quel est ton
Bref,
avis?
l'épisode est sympa mais sans plus. Je veux dire bon c'est une parenthèse quoi. C'est vraiment un épisode de, encore une fois, un petit peu de transition. L'intrigue principale autour de Damian n'avance pas beaucoup donc bon j'attends de voir la suite encore une fois.
Donc, ta
Voilà
note.
donc un check it plus on va dire.
Et pour toi, un gros bail, Sam.
Oui.
On continue avec le Talon numéro 2, scénarisé par Scott Snyder et James Tynion IV, dessiné par Juan José Rip.
Superbement dessiné par Ron Rosery.
Qui nous fait pas dans le méga
Gore.
graphique cette fois-ci, le
Mais dans
gore
l'ultra
avec le
détaillé,
boyau.
toujours.
Ouais, bah, c'est du Juan José Rip, quoi. Les dessins sont
Putain.
vraiment très beaux.
Il doit
On
s'exploser
assiste.
le poignet à chaque épisode, hein, parce que ça.
Ouais, c'est possible. Bon, là il est ancré, hein. Il s'ancre pas lui-même, il est ancré par
Ouais.
Vicente Cifuentes.
C'est peut-être pour ça qu'il se lâche un peu plus encore en plus sur les détails, parce que il y a des doubles pages dedans, mais tu te dis, mais il doit passer des jours là-dessus, hein.
Ah, c'est vrai que c'est superbe. Bon, l'histoire, c'est tout simplement la première mission réelle de Calvin Rose depuis qu'il s'est mis en tandem avec cette espèce de vieux dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Dont on se contrefout, mais c'est pas grave.
Qui va l'aider à détruire le Talon. Une mission où il doit aller récupérer les fichiers qui le concernent ainsi que la femme et la fille qu'il avait sauvées dans le numéro 0. Mais va-t-il vraiment tomber dessus? Est-ce que le vieux n'est pas derrière en train de l'envoyer vers autre chose? Ben justement, c'est la question que l'on se pose et à laquelle vous aurez la réponse dans cet épisode. Il va rencontrer un autre Talon et les plans des Talon commencent à se, enfin, les plans de la courte Fowls, pardon, se dévoilent un petit peu plus. Franchement, bon épisode, on rentre bien dans l'intrigue. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est pas une série à suivre absolument, mais en tout cas on va dire que c'est un bon gros défouloir cette série.
Bah, personnellement, j'étais pas convaincu par l'épisode 0-1, parce que je trouvais que ça prenait son temps pour se poser. Et puis là, l'épisode 2, je suis pas rentré dedans facilement non plus. Contrairement à toi, j'ai eu un peu de
Non mais
mal
en
sur
fait
les premières pages.
il y a énormément de texte tout le temps, il y a beaucoup beaucoup
C'est pas ça
beaucoup
qui
de
m'a gêné.
narration. Et bah moi je trouve que
C'est
ça gêne un petit peu à la
pas vraiment
lisibilité en fait.
quand la narration appuie ce qui se passe dans l'épisode, quand ça apporte des informations importantes, ça me gêne pas. Là, les 10 premières pages, il se passe pas grand-chose. C'est juste Calvin Ross qui rentre, qui pénètre en fait par effraction dans un immeuble. Voilà. Et ça démarre vraiment que quand il rencontre cet autre Talon, dont la confrontation finale est assez, on va dire Games of Thrones. Hein. Ceux qui auront vu la série comprendront. Et la dernière page quand même qui donne très envie.
Ouais, moi franchement, je suis vraiment satisfait par cette série.
Moi aussi. Je partais pas conquis. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir l'épisode 3 parce que ça donne vraiment envie.
Bon, je vais
Donc.
peut-être lui donner une nouvelle chance. Mais c'est pas l'épisode 2, là, simplement?
Oui, c'est l'épisode
C'est
2,
l'épisode
là.
2.
D'accord.
Non, je dis, ça m'a donné envie d'aller voir l'épisode 3, donc l'épisode
Ah oui,
suivant.
d'accord.
Ce qui n'était pas gagné, hein, donc félicitations.
Bon, pour moi, c'est un bail.
Oui, moi aussi.
Termine l'univers chauve-souris avec la sortie du Batman The Dark Knight numéro 14, Bunny.
Ouais, Greg Hurwitz est au scénario, David Finch au dessin et Sonia Aubach au coloriage, à la colorisation, bien sûr. Voilà ce que c'est de plus trouver ces mots. Et du coup, bah alors c'est Batman face au Scarecrow, encore une fois, hein, puisque on est toujours dans cet arc
Oui, depuis 4 mois.
très très glauque, très sombre, mais très bon aussi, je trouve, dans l'ensemble.
Ça
Sauf
dépend.
que là, je pensais qu'on arrivait enfin à la conclusion. Eh
Non, c'est
bien non.
l'épisode suivant.
Voilà, bah ça continue du coup de plus belle. Le Scarecrow s'en prend plein la tronche, Bruce Wayne aussi. D'ailleurs, il y a une scène assez, enfin,
Mais
que j'ai trouvé
gore.
assez bizarre. Oui, gore, mais je parle de la scène où Damian, au fait, récupère Bruce. On sent Damian vraiment attristé de l'état de Bruce Wayne. On sent un Damian vraiment plus fragile que ce qu'il est dans
Bah,
Batman Inc. ou dans les autres titres.
non, il faut lire Batman et Robin.
Dans Batman et Robin, je l'ai lu, hein. Mais enfin bon, il est pas, il est quand même plus tête de linotte que ça. Hein. Enfin pas tête de linotte, mais plus mauvaise tête quoi, je sais pas. Ouais. Plus teigneux quoi. Enfin voilà. L'épisode est sympa sans plus, mais alors je suis pas du tout convaincu par cette fin un peu bateau.
Oui, classique on va dire.
Voilà, très classique. Scarecrow est devenu d'ailleurs une sorte de Joker, c'est-à-dire que il s'en mange plein la gueule et il se soigne pas. Enfin, je sais pas
c'est très marrant.
Si tu vois ce que je veux dire quoi.
Ouais, non mais il y a une scène extrêmement gore sur un truc que fait Batman au Scarecrow au début de l'épisode, parce qu'effectivement en fait Batman est au bout du rouleau et tout ce qu'il veut c'est se barrer en fait. Et la manière dont il s'en sort, c'est je dois dire que je m'attendais pas à voir un truc aussi hard dans un titre Batman tout public. Donc c'est vrai que ça se dirige vraiment sur un titre Batman plus sombre, plus sanglant et
plus
vraiment
adulte,
réservé à un public plus adulte.
Mais en même temps, Gregor Witz, voilà, il est connu pour
voilà.
Ça et là il ne bon. Et puis graphiquement, alors c'est superbe. Franchement, David
je confirme.
Lynch, voilà, il est vraiment.
Il est plus à l'aise avec ce style très noir. Là, on le sent à la maison.
Bon, alors, juste sur cet épisode, par contre, un check-in de plus, parce que, bof.
Ça avance modérément.
Voilà, ouais. Un peu déçu quand même.
Voilà, c'est un bon check-in aussi.
Ok, on va passer à l'autre crossover de chez DC, le dernier en date qui nous reste à parler. C'est le Rise of the Third Army avec la sortie du Red Lanterns numéro 14, Corwin.
Oui, alors je dirais même une moitié de crossover, puisqu'il n'y a qu'une série sur deux qui en parle. Mm-hmm. Bref. Donc au scénario on retrouve Peter Milligan et au dessin Miguel Sepulveda et donc là pour le coup on tombe sur une série qui parle vraiment de la Third Army. Le mois dernier on avait laissé le corps des Red Lantern en pleine baston avec ces espèces de zombies faits par les gardiens. Dans cet épisode on commence par la fin de leur combat contre cette Third Army. Atrocitus avait trouvé un moyen de les combattre efficacement en leur crevant les yeux, hein, on peut le dire. Donc voilà, là on a la résolution de ce combat et puis après le corps cherche un moyen de contre-attaquer efficacement cette nouvelle menace et de savoir aussi d'où ça vient. Donc ils ont quand même de bonnes grosses pistes. On avance aussi un peu plus dans la caractérisation du premier Red Lantern humain, Rancor.
Alors qu'il me fait chier ce personnage, mais alors.
Moi je trouve qu'il est intéressant parce qu'il est pas pétri de haine comme les autres. Il
Se pose
des questions
ça...
et c'est pas la rage aveugle. Mais je pense qu'ils peuvent développer quelque chose d'assez intéressant là-dessus.
C'est lequel? C'est le First Lantern, c'est ça?
C'est le.
Non,
premier Red Lantern humain.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est lui qui a des petites flamèches sur le coin des yeux.
Voilà, celui qui était.
Qui a des cheveux de Super Saiyan.
Voilà.
C'était
un peu ridicule, quoi.
Le traitement de ce personnage, son introduction, c'était un peu en seconde histoire, en fil rouge dans tout le premier arc.
Ouais.
Donc les Red Lantern, après vont retourner chez eux et puis ils vont utiliser un peu de magie. Enfin, ça part dans tous les sens, mais ça reste quelque chose de construit. L'histoire avance. On en apprend plus sur la Third Army et surtout sur comment les combattre. Les Red Lantern ont une idée un peu surprenante pour eux, même si moi je la sentais venir, mais c'est surprenant par rapport au personnage des Red Lanterns et à ce qu'Atrocitus notamment a vécu. Et puis,
pas que pour ça, c'est aussi surprenant de faire appel à ça pour combattre une arme des gardiens finalement.
Oui, exactement. C'est un beau petit twist quoi. Et puis bon, voilà. Après l'histoire va suivre son cours. Je vais pas trop en révéler parce que c'est un épisode qui moi m'a vraiment énormément plu, autant au niveau du dessin qu'au niveau du scénario.
Oh, il a fait un rototo.
C'est riche, ça bouge. C'est vraiment un lien. Moi, c'est mon coup de cœur de cette semaine chez DC en tout cas.
Mon côté, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Hein. Il y a, comme tu l'as dit, il y a cette séquence magie pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les Red Lanterns, ce qui mélange à moitié la magie et la technologie que j'ai trouvé vraiment limite dérangeante en fait. d'utiliser un rituel avec du sang mélangé à de la technologie. Enfin, c'est vraiment vraiment Zarb. Et là où c'est très fort, c'est qu'il arrive non seulement à faire avancer l'histoire de ses propres personnages, sans oublier le crossover. Et il continue de développer tous ces personnages-là, tout en faisant avancer le crossover, ce que apparemment certains autres ne sont pas capables de faire. Donc là, franchement, moi, je suis surpris en bien par Monsieur Milligan. Moi, qui le critiquais beaucoup sur ses premiers Red Lanterns, là, je dois avouer que, franchement, je suis conquis. Tu l'as lu aussi, Sam ?
Oui, ça m'a plu aussi. Et ce qui m'a frappé vraiment, c'est la partie visuelle, la partie graphique, parce que on en prend plein les yeux. C'est là, Miguel Sepúlveda, il s'est déchiré, mais comme j'avais jamais vu avant. Parce qu'il y a des doubles pages.
Sepúlveda est né pour faire du cosmique, hein, de toute façon.
Ouais. Ah oui, là. C'est un feu d'artifice.
Donc, très 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 bonne surprise. L'épisode précédent était déjà assez bon, notamment parce qu'il traitait déjà le crossover. Milligan continue à traiter le crossover, donc merci de ne pas mentir comme certains autres scénaristes de la franchise Green Lantern. Hein?
Vous remarquerez qu'on n'a jamais autant dit de bien de Red Lanterns.
Parce qu'on a
finalement, le crossover était salvateur pour cette série.
Voilà, faut voir comment ça sera après, mais pour le moment, oui, Milligan s'en sort très bien.
En tout cas, moi, pour le moment, j'ai envie de la continuer, même après le crossover, alors que je l'avais arrêté au numéro 6.
Bah, ça, pour moi, ça sera un bail aussi.
Donc, 3 bails pour le Red Lanterns, et on termine la partie d'essai avec King Ed, qui va nous parler du deuxième numéro de Lot 13.
Oui, avec toujours Steve Niles au scénario et Glenn Fabry au dessin. Donc, un comics d'horreur, ça commence encore une fois à Fairfax County dans les années 20, là, cette fois. Et on a encore une mort très graphique de quelqu'un, donc c'est assez trash en plus le début. Le tout sur une petite musique, en fait, il y a un fil rouge, on voit les paroles d'une chanson. J'ai recherché la chanson sur internet, j'ai trouvé un lien, c'est une vieille musique des années 20, donc je vous donnerai le lien.
Maintenant, tu vas mourir.
Si vous voulez l'écouter en même temps, parce que ça donne en plus une petite ambiance un peu particulière en lisant le comics. Après, on retrouve cette famille là qui, pareil, à Fairfax, s'est arrêtée dans une maison qui est un peu apparue comme par magie, et ils commencent à avoir des visions très très glauques de fantômes, de gens avec des trous dans la tête, des visages complètement déformés. Voilà, ils commencent à se dire il y a quelque chose qui va pas ici, et surtout le petit garçon qui se retrouve face à face avec le petit garçon qui s'était pris une balle dans la bouche dans le numéro 1, qui voilà, il lui arrive des choses un petit peu spéciales. Donc franchement, je trouve ça très bon. C'est crade, c'est fun, c'est taré, et il y a un cliff, j'ai trouvé assez excellent. Donc pour moi, c'est un bon gros bail et une bonne surprise, cette série.
Je dirais sinister. Hein.
Très bien, et ben on va rester dans cette ambiance un peu étrange. On va passer à la partie indé maintenant avec Sam, qui va nous parler du 30e numéro de Chou.
Toujours scénarisé par John Lehman et dessiné par Rob Guillory. Alors je vais pas m'attarder parce que l'ensemble de l'épisode en fait tourne autour d'un gros twist dans la série. Très sombre, très différent de ce qu'on a vu auparavant, parce que très sincèrement on ne rigole pas dans cet épisode, mais pas du tout.
J'espère qu'ils ont pas tué Poyo.
Non, ils n'ont pas tué Poyo, mais ils ont tué un des personnages principaux.
Si j'avais pas fait le podcast, il aurait été en dépression.
Voilà, disons que...
Oui. Dis rien alors, mais...
Mais il y a un des personnages principaux qui y passe. Donc ça reste un bail.
Ça me donne pas envie d'aller l'acheter quand même.
Ça reste un bail, et vraiment très dur, parce que après 30 épisodes, on s'est attaché à tous les épisodes, donc voir un des personnages disparaître comme ça, en plus, de manière vraiment gore et violente, c'est pas évident.
Non, ne pleure pas, Sam, ne pleure pas.
Je suis à deux doigts. C'est trop triste.
Surtout quand c'est Tony qui meurt, en plus. C'est con, quoi, le personnage principal.
Ouais, c'est con, hein. Bah, la série est finie, voilà, c'est terminé.
Ah non, elle continue, mais elle change de titre et elle change de personnage principal.
Non, bah, elle change de titre en français, peut-être, mais même pas en anglais, il n'y a pas besoin. Ça s'appelle Chou, de toute façon.
Bah oui, ça pourrait continuer comme ça. Alors, on continue avec la sortie du premier numéro de Nowhere Man, King Ed.
Donc, écrit par Eric Stephenson, et avec au dessin Nate Bellegarde, et surtout une super colorisation de Jordi Belair, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon.
Ouais. Et puis revoir Eric Stephenson écrire, c'est bien aussi. Quoi. Eric Stephenson était cantonné à des boulots d'administratif, hein, puisqu'il était chef d'image.
Et alors, quelle bonne surprise. Le pitch, c'est un peu imaginer les Beatles, mais en scientifique. C'est-à-dire quatre superstars de la science qui ont beaucoup d'ambition, qui sont des ultra génies, qui décident de fonder une grosse organisation qui s'appelle World Corp,
la Future Foundation.
Et donc ça, c'était dans les années 70.
C'est pas les personnages de Big Bang Theory, non?
Non, ils sont beaucoup plus intelligents et moins geeks que les personnages qu'on a dans Big Bang Theory. On a Dade, Simon, Emerson et Thomas. On a un petit peu tous les types de personnages. On en a des très posés, on en a un qui est très ambitieux, et on en a un qui me fait penser un petit peu aux scientifiques dans Fringe, qui est à fond sur le LSD, complètement taré parfois. Donc voilà, ils ont fondé une super grosse boîte qui est un peu devenue la multinationale de la science. Ça se passe dans les années 70. Et après, on arrive dans le présent, on les voit plus âgés, ils sont toujours les chefs de cette grosse corporation. Il y a un des membres qui n'est plus dans l'équipe, on sait pas ce qu'il est devenu. On se rend compte en fait que c'est eux qui dirigent énormément de choses dans le monde au niveau de la science. Donc voilà, ça c'est la première partie du récit. Après, il y a une deuxième partie du récit qui a l'air complètement indépendante, où on voit des tas de gens qui sont contaminés dans un espace confiné. Ils ont tous des maladies un petit peu différentes. Ils parlent d'un virus qui s'est propagé. En fait, on sait pas trop s'il y a un lien avec ce qu'on a lu au début. Et finalement, il y a un lien entre les deux. C'est hyper intriguant. Il y a de bonnes idées, de très bons dialogues. C'est un peu what the fuck par moment, mais voilà, il y a beaucoup de choses à lire. Il y a une bonne utilisation du média aussi, type journal, puisqu'il y a des extraits de journaux en fait dans le comics, donc avec surtout une présentation des personnages avec type qu'est-ce qu'ils aiment, quelle est leur musique préférée et tout. Ça permet de voir un peu le caractère de chacun, et à la fin il y a carrément une interview d'un des scientifiques qui est sur deux pages de trois colonnes. Enfin, il y a beaucoup de choses à lire, c'est vraiment très bon, une bonne surprise, un gros bail. On a appris sur internet que Delcourt allait l'éditer en France l'année prochaine, donc à mon avis c'est quelque chose qui sera peut-être intéressant aussi d'acheter en français, mais si vous voulez vous jeter sur la VO, franchement allez-y, c'est un gros bail.
J'imagine que c'est quand même réservé à un public qui a une certaine habitude de l'anglais, vu qu'il y a énormément de choses à lire.
Alors oui, il y a beaucoup de choses à lire, donc une certaine habitude de l'anglais. Il faut aimer aussi un petit peu la science-fiction, mais.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un style comme un autre, mais je veux dire, c'est pas du Bendis à lire, quoi.
Ah non, c'est pas voilà. Du Bendis.
En même temps, bon, ceux qui écoutent Comics Weekly, vaut mieux qu'ils soient assez rodés en anglais. Quand
même. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que si on a un niveau, on va dire moyen, ou de temps en temps on a besoin un peu du dico, c'est peut-être pas la série à aller chercher, quoi. Ça peut être utile à préciser, je pense, plutôt que les gens soient déçus en l'achetant et se rendent compte que ça les ennuie à lire, tout simplement parce que c'est trop long ou trop compliqué, hein, ça peut arriver aussi. Sachant qu'il y a une VF qui va être disponible l'année prochaine, voilà, ça peut être une bonne raison d'attendre.
A priori,
ils misent
pas mal dessus parce que le numéro...
Qui le fait, du coup? On sait pas.
Hein? Delcourt, il a
Delcourt.
Dit.
Delcourt. Ah, c'est Delcourt, d'accord.
Ok, donc un bail.
Un gros bail.
Très bien, on continue avec la sortie de Planétoïd. Sam?
Oui, Planétoïd numéro 4 par Ken Garing, surtout. Absolument tout. Il fait scénario, dessin, lettrage, colorisation. C'est vraiment de l'artisanat pur. Donc ça explique un peu le petit retard du bouquin.
Et quand on voit... Tu nous avais déjà parlé, hein, Sam, il y a de ça quelques semaines.
Non, il y a quelques mois, parce que la série avait un peu de retard.
Oui, enfin, quelques semaines, ça reste vague. Hein.
Voilà. Ça peut être 18 semaines comme 2.
Voilà, c'est ça.
Donc, en fait, on continue l'histoire de ce mercenaire qui s'est écrasé sur une planète à la gravité augmentée, ce qui fait qu'en fait, il est bloqué là. L'épisode précédent était excellent, puisqu'on le voyait, en fait, organiser la vie sur cette petite planète minière qui est sous le contrôle d'un empire extraterrestre, et essayer de reconstruire un vaisseau pour se barrer. Et là, en fait, il se fait capturer par cet empire en question qui aime bien lobotomiser les gens pour en faire des robots ouvriers, ce qui est un peu le sort qu'il attend, mais il arrive peut-être à s'en sortir. Peut-être, hein. Un excellent épisode, encore une fois. C'est vraiment une série qui gagne à être lue, qui ne fait que s'améliorer d'épisode en épisode. Niveau scénario, c'est la même qualité qu'avant, mais c'est vraiment au niveau graphique où là, niveau détail, Ken Garing va dans le... Je sais pas comment il fait, mais c'est de mieux en mieux. Et le personnage principal qui, en termes de caractérisation, gagne beaucoup en humanité, je trouve, alors qu'il était assez froid au début. Donc, très très bon.
Des robots, tu peux que gagner en humanité quand t'es le seul humain.
Oui, mais là on le voit exprimer des regrets sur des actions passées, alors qu'avant il en avait rien à péter. Là on sent que voilà, il y a de l'évolution du personnage. Donc très très bon. Donc ça reste un gros bail cette série, allez-y. Cette série qui sera en fait une suite de mini-séries, Ken Garrix a exprimé là-dessus sur son blog pour dire que ça suivrait un peu le format de Hellboy avec des suites de mini-séries qui s'enchaîneraient. Voilà, donc un gros bail.
Ok, et on sait en combien allait la première mini?
5.
5. Donc la fin, enfin le
L'épisode précédent.
prochain numéro sera le dernier de cette première mini.
C'est ça.
On continue avec Corwin qui nous parle du deuxième numéro de MacGyver, et oui, il y est retourné.
Oui. Alors c'est écrit par Lee David Zlotoff et Tony Lee. Et au dessin à l'ancrage, on retrouve Will Sliney. Alors, dans l'épisode précédent, MacGyver avait été retrouvé un de ses anciens professeurs et amis qui avait une solution pour permettre à tout le monde de bouffer. Ce gars-là s'était fait buter et tout le monde croyait que c'était MacGyver. Finalement, il s'est échappé. Enfin, un épisode assez rocambolesque. Et ben là, le deuxième, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il va retrouver un vieil ami pour lui demander des informations, ça on voit au début.
Un vieux copain de l'armée.
Il y a pas mal de rebondissements, il fait encore un truc de fou avec des objets qu'il trouve à côté de lui, il fait des choses trappes avec des citrons et des clous, enfin bon. Donc,
Il est
boss,
fort quand même ce MacGyver.
oui, il est très fort. Ça bouge bien, c'est pas trop mal dessiné, enfin, les dessins je les trouve bien mais sans plus. Honnêtement, j'ai du mal à accrocher complètement. Voilà, l'histoire, il y a pas mal de rebondissements, ça avance. Bon, un bon
Est-ce qu'il y a assez à
épisode.
manger? Est-ce qu'il y a assez à manger pour les fans de comics? Parce
Non, il y
que
a
pour
plus à
quelqu'un
boire
qui a
en fait,
inventé un
ceci.
remède pour donner à manger à tout le monde, ça vaut mieux, quoi.
Non, il y a plus à boire parce que c'est avec de l'eau de mer qu'il veut faire ça.
Waouh.
Donc
J'ai
voilà.
juste un mot à dire, waouh.
Et donc, bon, c'est pas mal dans l'ensemble, mais après, c'est pas non plus transcendant.
Ça semble tout pourri.
Non, il y
Je
a.
suis pas super convaincu pour y aller non plus, je t'avouerai, mais.
Moi, j'y
Non,
suis
mais
pas retourné, hein.
y a des choses, ça avance, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, bon,
Sans
c'est en
blague.
5, je dirais moi, je dirais un check-it. Voilà.
Ouais.
Ouais.
Jetez un œil si vous aimez MacGyver, sinon ça vaut pas la peine.
Moi, je dirais que t'es généreux. Bon, enfin bon.
J'ai l'impression que c'est un retour un petit peu raté pour un personnage emblématique d'une série comme ça, quoi.
Moi, je
Oui,
donnais pas cher en
ça
même temps
pourrait
de ce
être mieux.
retour.
Ça pourrait être mieux. Mais bon, c'est gentil, quoi.
On continue et on termine sur l'indé avec la sortie d'un crossover chez Dynamite, Kinghead.
Ouais, un numéro 1, donc Masks, qui est scénarisé par Chris Robertson et surtout bah, c'est peint par Alex Ross. Donc déjà rien que pour ça, Alex Ross qui fait des intérieurs de toute beauté, ça vaut un check-it déjà juste pour voir comment c'est. Le pitch, bah, c'est un gros crossover entre différentes franchises de Dynamite. On retrouve Green Hornet, The Shadow, The Spider. Et peut-être même Zorro. Alors là, je sais pas comment ils vont le faire à entrer dans l'histoire. Pour l'instant, il n'y est pas, mais a priori, ils ont teasé Zorro aussi qui va intervenir.
Bah, tu vas voir, il va y avoir la nuit, il va y avoir un cavalier qui va surgir hors de la nuit. Ce sera
Voilà.
Zorro.
Et qui va signer d'un Z qui veut dire Zorro. Et donc ça se passe en 1938, New York. Il y a un nouveau parti politique qui est arrivé au pouvoir, qui s'appelle le Justice Party. Et il se trouve que ce parti, en fait, c'est le crime organisé qui, du coup, fait des nouvelles lois. Des nouvelles lois un peu où ils réclament de l'argent aux pauvres, ils renvoient les clandestins en
Ils
dehors
sont
de la
cons.
ville. Enfin, c'est le gros
Ils
bordel.
sont
Et
cons
donc
de
du
réclamer
coup
de l'argent aux pauvres.
ouais et donc du coup c'est le gros bordel au niveau de la justice. Et bah il y a plusieurs héros masqués qui décident de s'allier entre eux pour pouvoir un peu remettre les choses dans le bon ordre. C'est pulp, c'est superbe, enfin c'est très beau quoi, c'est du Alex Ross. Je pense que j'irai voir la suite. Après bon, c'est des héros qui moi me parlent pas énormément. C'est quand même très old school, hein.
Bon, en même temps, si c'est pulp, ça
Voilà,
va.
ouais. Mais ouais,
Moi,
j'irai
ça
quand
me
même voir la
rappelle.
suite et ça mérite vraiment un beau check-in de plus rien que pour les dessins déjà. Et donc voilà.
Ça me rappelle un peu la série Dynamite Super Power, non?
Mais
Je
qui
sais
a
plus comment
été
c'est.
écrit par Jim Kruger et Alex Ross.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ben justement, ouais, c'est pour ça que j'en parle, mais c'était Super Power, je sais même plus.
Oui, il y avait Super Powers et il y en avait une autre avant aussi qu'il avait testé.
Enfin, je me rappelle. C'était celle avec le Daredevil là, des années 60 ou des années 50, je sais plus, des années 40 même. Allez hop.
En tout cas, c'est une série. Le
nom m'échappe.
C'est une série masque qui était très attendue puisqu'il y a eu énormément de précommandes, plus de 60 000 je crois. Donc c'est un des plus gros titres indé ces derniers mois. Donc il y avait de l'attente.
Bah non, le plus gros titre indé de ces derniers mois, c'était My Little Pony.
Un des plus gros.
Oui. Bah je te dis, le plus gros, c'était My Little Pony. Saleté de petite gamine.
Ça va, Sam. Ne donnez pas une gamine à Sam, il va en faire de la charpie. Hein.
Bah, j'ai feuilleté My Little Pony, y avait trop de couleurs, j'ai failli me vomir. Donc,
ouais. C'est comme Nono, hein.
Non.
Ne donnez pas une petite fille à Nono. On va en faire de la charpie, mais en plus d'une autre manière.
Oh non.
Une caution.
On sera content de la prendre.
Bon bah salut à toi Nono.
Spécial dédicace, t'as vu.
Allez, on va, avant de passer à Marvel, on va juste signaler la sortie du numéro 2 de Bedlam dont on avait parlé le mois dernier avec Sam. Mm-hmm. Comic qui nous avait totalement pris par surprise, qui était un grand coup de latte dans les couilles.
Mm-hmm. Et le deuxième épisode également.
Je dirais même qu'il est encore pire. Alors ça va, franchement, loin. C'est super bon. C'est une série que je vais continuer de lire, mais je suis incapable de la résumer tellement c'est barré. Les dessins, c'est tellement zarbe que c'est pareil, ça s'adresse à un public super.
Bah, je dirais que c'est zarbe parce qu'on entre dans l'esprit d'un fou. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est zarbe.
C'est franchement, c'est un truc de malade, mais je trouve ça vraiment bien. Donc je j'aime bien. Tu l'as lu aussi, Benny, je crois.
Oui, je suis arrivé au bout.
Non.
Tu l'as pas lu, Benny?
Non, du tout.
Ah, tu n'as pas eu le temps de lire. Non, j'ai envie de te dire, t'as peut-être pas raté grand-chose. Je sais pas si ça te plairait, en fait. Je sais pas,
ouais. Parce que moi, ça me fait peur, les gens qui disent qu'ils adorent, mais qui peuvent pas le dire, parce que, enfin...
Bah, ça dépend. Est-ce que t'as aimé le Joker dans Dark Knight? Est-ce que t'as aimé le Joker dans Dark Knight?
Pas spécialement, mais parce que c'était Dark Knight. Mais ça aurait été autre chose, j'aurais aimé.
Bah, moi, je te la conseille. C'est tellement barré que je te la conseille.
Bedlam, c'est pas censé être du Batman, donc je peux aimer Bedlam. Voilà, c'est différent, quoi.
Bon, on va essayer de résumer très succinctement l'histoire. C'est que faire quand le plus grand des fous, le plus grand des sociopathes essaye de se racheter. Et voilà. Peut-il seulement se racheter? Voilà, en est-il capable?
Est-ce que ça vient de lui, ce délire de se racheter?
Voilà. Et on a des scènes avec des infirmières qui ont la bouche cousue, des trucs ignobles. Mm-hmm. Enfin, bref, c'est...
Des crânes ouverts, des cerveaux à l'air avec des mouches qui tournent autour.
C'est vraiment zarbi, quoi. Vraiment à réserver un public super averti.
Ouais.
Bah on va passer à un truc qui rentre dedans aussi. C'est chez Marvel. C'est la sortie du deuxième numéro de Thor. C'est écrit par Jason Aaron, dessiné par Esad Ribic. Et c'est une tuerie visuelle, hein, comme le premier.
Ouais.
Alors, on rappelle un tout petit peu l'histoire. On avait ce fameux God Butcher, qui est donc un espèce de dieu, enfin, on ne sait pas trop, une espèce d'entité qui s'amuse à désinguer les dieux à travers différentes périodes de temps. Et on avait donc un Thor jeune du passé, le Thor de l'époque présente et le Thor du futur, façon Odin qui, on en était resté là, s'attaquait à une armée de Butcher, seul contre tous, avec son marteau et une épée dans l'autre main et un patch sur l'œil, façon Nick Fury Odin.
Ouais.
Voilà. Parce que donc moi, là, patch sur l'œil, ça me fait penser à Nick Fury. Et bah, dans celui-ci, nous allons être quasiment que sur le Thor du passé, et on va voir cette première rencontre entre le fameux
Gore,
voilà, c'est le nom que je cherchais, face à ce jeune Thor qui ne possède pas encore Mjolnir.
Oui, qu'il essaye d'avoir au début de l'épisode, mais Mjolnir lui dit d'aller se faire mettre.
Et c'est très drôle ce passage-là, moi j'aime beaucoup.
Ouais.
De toute façon, il y a tout le début, je trouvais assez drôle, puisqu'on voit un Thor vraiment très très jeune qui s'amuse avec les Vikings à aller conquérir des terres
et aller combattre les dieux étrangers surtout, parce que c'est pour ça en fait qu'il est avec les Vikings, c'est pour aller se fracasser avec les dieux des contrées étrangères.
Voilà, il s'amuse se fracassant avec les autres dieux.
C'est un dieu adolescent en fait. Hein.
Ouais. Voilà. Et il se marre bien, et sauf que après ça devient plus très drôle quand ils se rendent compte que les dieux slaves ont été un petit peu éliminés. Donc,
Ouais, parce qu'ils étaient pas très propres.
Ah, j'allais la faire. Oh, c'est méchant.
Tu détends sur Steve, c'est mal.
J'ai trouvé ça très sympa de la part de Jason Aaron, en plus de reprendre un panthéon qui existe vraiment et en reprenant les noms des dieux slaves qu'on peut connaître. Donc il y a quand même de la recherche aussi de la part du scénariste qui est bien. Et
bah, de toute façon, c'est le minimum. Hein. Quand t'écris Thor, le minimum, c'est de faire de la vraie mythologie. Quoi.
Ouais, non, mais ça, du coup, ouais. Ça fait quand même plaisir. Et
ah bah, franchement, si ça avait été du n'importe quoi, ça m'aurait vraiment déçu.
Ils peuvent se le permettre quand ils parlent de mythologie, tu sais, qui vient d'espace.
C'est des dieux, non, mais quand
ça.
C'est des dieux extraterrestres, d'accord. Mais quand c'est sur Terre, le minimum, c'est d'avoir une mythologie voilà. Réelle. Quoi.
C'est clair.
Pour Thor, ça a toujours été le principe. Hein.
Et après, je trouve le combat, il y a une belle mise en scène avec.
Ouais. Vois, surtout quand cool. Il finit par lui demander de tu es le dieu de quoi en fait.
Ah ouais, bah ça bah, c'est
là ça bien. Donne.
Et c'est moi j'aime bien aussi ce personnage de Gore, c'est pas quand on le voit apparaître, c'est pas un gros bourrin super baraqué, c'est il fait plus si vous faites un peu de jeu de rôle médiéval fantastique, c'est plus le rôdeur, l'assassin, enfin
ah
il
bah,
a plus
complètement,
ce
ouais.
Look
c'est un
là,
chasseur.
Et,
hein.
Ouais, et c'est extrêmement bien rendu, ça, plus le côté magie quand il convoque ses armes pour dézinguer les dieux. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette.
Bah, moi, justement, ça m'aurait fait marrer que Gore the Butcher, ce soit totalement assumé, que ce soit un mec, une montagne, quoi.
Bah, il est balèze.
Non, mais quand tu regardes déjà son visage, regardez bien son visage, est-ce que c'est vraiment son vrai visage? Je suis pas sûr. Quand on regarde, on a l'impression qu'il porte un masque, en fait.
Ah. Enfin, moi, d'une manière générale, je suis moyennement convaincu, quoi, par cet arc. Le problème, c'est que quand tu vois le passé, le présent, le futur, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. T'es déjà entre guillemets spoilé un petit peu, donc bon.
Bien sûr, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quelles traces, quelles séquelles ça a laissé sur le personnage de Thor, puisque c'est lui que l'on va suivre. Et on peut voir que cette première rencontre, de toute façon, on se doute bien qu'il ne tue pas Thor, donc qu'il ne tue pas Gore, pardon. Donc de toute façon, je spoile rien puisqu'il va le retrouver dans le présent et dans le futur. On sait très bien qu'il ne remporte pas le combat, mais.
En fait, on ne sait pas trop puisqu'apparemment dans le futur il y en a plusieurs. Donc
comment va-t-il au moins se sortir de cette situation?
Capable
c'est
de
ça
créer des constructions avec les ombres en fait. Donc c'est pas plusieurs Gore, c'est en fait il crée des tas de créatures grâce à ses pouvoirs.
Il a des serviteurs en fait.
Ouais d'accord. Mais
en plus ça spoil rien parce que Thor c'est un dieu dans le futur dans des millions d'années il existera encore. À chaque fois il y a un Ragnarok après ils reviennent à la vie. Enfin je veux dire ça spoil pas. Hein.
Mais Thor là cette version de Thor ça me fait un petit peu penser à ce que fait Azzarello sur Wonder Woman, c'est-à-dire c'est très détaché du reste de l'univers et voilà, c'est très axé mythologie. Bon, il faut aimer. Je déteste pas, je trouve ça sympathique mais je sais pas, là je suis moyennement convaincu par cet angle.
Dans la lettre
t'as pas
à la
assez
fin,
à manger en fait.
dans la lettre à la fin, l'auteur nous indique qu'il y aura Iron Man qui interviendra dans la troisième partie. Donc il va quand même se rattacher à l'univers classique Marvel.
Bah, je pense de toute façon, étant donné qu'on s'est intéressé au passé cette fois-ci, c'est clair que la fois prochaine ce sera le présent et le numéro 4 ce sera sûrement futur, une grande partie du futur.
Parce que ça se termine dans le cinquième, le premier arc s'arrête avec le 5 numéro.
Ouais.
Pour une conclusion plus qu'épique dans le cinquième, ouais, c'est clair.
C'est là où on voit direct la construction. C'est pour ça que bon, voilà, je suis pas très très convaincu. Faut voir.
C'est super beau. Et juste un petit truc par rapport à l'application AR, sur tous les titres Marvel Now, là j'ai testé, en fait quand vous regardez la couverture, vous avez le résumé qui est raconté de l'épisode précédent et c'est super bien fait.
Ça c'est une bonne chose, ils avaient déjà commencé à le faire.
C'est super bien fait puisqu'on a carrément toute l'histoire du précédent numéro qui est racontée, avec une voix off, avec on voit les panneaux qui s'animent. Franchement, j'ai été impressionné et ça l'a fait sur tous les titres Marvel Now que j'ai regardé.
De même que les premiers AR en général, ce sont simplement les créateurs qui parlent un tout petit peu de la série dans des petits moments, je vais pas dire des interviews où ça dure quoi, une trentaine de secondes, qui sont plus ou moins sympathiques, qui donnent une direction générale de la série ou voilà, enfin. Ça reste encore pas trop mal fait quand ça reste comme ça.
C'est du parce bonus, que, mais moi ça commence à m'intéresser de plus en plus et je m'amuse de plus en plus à regarder les codes.
Moi, j'avais regardé sur Indestructible Hulk, et le premier, c'était Mark Waid qui parlait. Les autres, c'était simplement des pages où on voyait le crayonné, et puis ça faisait un petit zoom, et puis en fait, ça se colorisait tout seul. Et c'était, en fait, franchement, c'était vraiment nul à chier. Ouais. Ça, c'était totalement dispensable, au lieu de nous mettre un vieux macaron
contre,
dégueulasse à air dessus.
Sur les
quoi.
Covers, je trouve ça vachement bien.
Ça, par contre, c'est une très bonne idée. C'est une très, 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 très bonne idée.
Jusqu'au jour où ça va déconner, où ils te raconteront ce qui va se passer dans l'épisode d'après.
Ah, faudra pas qu'ils se chient dessus.
Ouais. DC devrait peut-être y penser. Ça permettrait de faire des résumés, hein.
Bah ouais,
parce qu'ils
ne
font toujours pas de recap page. C'est un petit peu chiant, quoi.
Ouais. C'est sûr, faut rien rater, quoi, chez eux.
Enfin, voilà, c'était un petit aparté, mais c'est.
Sam, es-tu toujours autant convaincu par Thor après ce deuxième numéro?
Oui, toujours. Je trouve que l'idée, en fait, j'avais peur justement qu'il ne fasse que des épisodes segmentés en trois. Ce qui, en général, ne fait que ralentir le développement de l'intrigue. puisqu'on a qu'un petit bout en fait. Là, le fait qu'il se soit concentré justement sur le tour du passé fait qu'on a une explication sur comment il a rencontré Gore, comment il y a survécu, comment en fait son ennemi aussi a pu survivre, et comment il peut le re-rencontrer dans le présent et peut-être dans l'avenir. Donc,
c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Moi.
Voilà, ça pose une bonne base en fait pour le développement de l'histoire à venir. Donc, très bonne lecture.
On ne sait pas tellement comment il a survécu son ennemi.
Bah, on comprend que ça, ce que fait Thor ne l'a pas tué.
Faut voir la suite.
Ça, l'a sûrement affaibli.
Ça, on le savait de toute façon.
On verra bien.
Ça l'a sûrement en fait affaibli, oui, et l'a obligé à fuir. Mais ça s'arrête là. Donc un bon bail.
Un gros bail, et c'était mon coup de cœur, moi, de la semaine.
Pareil, pour moi, c'est un bon bail, et c'est mon coup de cœur chez Marvel.
Benny ?
Moi, je dirais simplement un petit bail, voire un check-it plus.
Ok, pour moi, un bail aussi, vraiment surpris en bien, donc principal. On continue avec la sortie du Uncanny Avengers numéro 2, Kinghead.
Oui, donc Rick Remender au scénario, John Cassaday au dessin, donc un numéro qui s'est fait un petit peu attendre, puisqu'il y a quand même eu pas mal de retard.
Bah, 2 semaines, ça paraît pas beaucoup, c'est vrai, mais sachant que le troisième ne sortira plus qu'en janvier, qu'on en a pas en décembre.
Le problème, c'est que ça a pas mal décalé la suite. Par contre, moi j'avais été très perplexe après le premier numéro, qui à la fois je lui avais trouvé des défauts, mais en même temps il m'avait bien captivé. Là, ce deuxième numéro, franchement, j'étais à fond dedans et j'aime vraiment beaucoup cette série, Uncanny Avengers. La couverture est juste sublime. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures couvertures ces derniers temps. Pourtant, je suis pas un gros fan de Cassaday, mais je la trouve excellente. Et je trouve qu'ils ont vraiment créé un méchant à la hauteur du scénario, puisqu'on a ce Red Skull nazi qui a été un peu cryogénisé et qui a donc encore toutes ses idées de la Deuxième Guerre mondiale et qui est complètement anti-mutant, qui se retrouve avec une galerie aussi de méchants au design qui sont assez douteux mais qui finalement sont assez intrigants. Je les ai trouvés vraiment hyper intéressants et vraiment méchants, quoi. Et on voit comment ils traitent justement Rogue et la sorcière rouge, c'est assez trash. J'ai adoré le scénario, j'ai trouvé ça très bon. Il y a pas mal d'humour aussi, il y a une scène avec Rogue qui nous donne quelques infos un peu sur ses préférences sexuelles avec Gambit qui m'a fait un petit peu rire. Et voilà, et puis finalement je me suis habitué à
pas parler. Certain que ce soit ses préférences à elle, hein,
ouais mais enfin bon, elle doit être quand même assez d'accord. Et donc voilà, puis je me suis habitué à Cassaday finalement. C'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même assez efficace, même si son Captain America, je le trouve super moche avec ses écailles.
Et son casque trop grand pour lui. N'oublions pas son casque trop grand pour lui.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand même, c'est quand même très efficace et c'est du bon Rick Remender qui me donne envie de voir la suite. Et pour moi, c'est un gros bail.
Bon, j'ai un avis totalement différent du tien.
C'est bien d'avoir des avis différents.
Ouais, moi j'ai envie de dire tout ça pour ça après deux mois d'attente. Eh bien, aussi bien au niveau scénario que dessin, y a pas grand chose. Je trouve que John Cassaday, par rapport au premier numéro, c'est vraiment faiblard. Je trouve pas ça terrible. Et puis niveau scénario, pareil, pas grand chose à en dire. Ça n'avance pas beaucoup. Le retour de Crâne Rouge nous est expliqué, mais alors d'une manière, on pouvait pas faire plus classique.
On nous l'avait déjà dit il y a de ça 3 mois, donc.
Oui, mais enfin, dans les pages du comics, puisque moi,
c'est l'exacte même explication, quoi.
Oui, non, mais enfin, moi,
ça perd pas son temps, je trouve. C'est vite expédié, mais du coup, on y croit, quoi.
Oui, enfin, il y a voilà.
Et ça permet d'expliquer ce caractère.
Pas du tout
vraiment
imaginatif. C'est un truc vraiment, alors là, bateau convenu. Puis je sais pas, il se passe rien, quoi, dans cet épisode. C'est surtout ça, c'est...
Ah bah si, on se rend vraiment compte que ce groupe anti-mutant commence à semer la pagaille sur la Terre entière. Justement, avec un de ces mutants là qui est la propagande vivante. Il est génial, ce mec.
Non, mais Crâne Rouge, c'est pas nouveau, hein. Été comme ça.
Mais il y a pas que Crâne Rouge, mais toute son équipe de nouveaux méchants, je trouve, ils sont hyper intéressants et ça fout le bazar.
On en voit deux, 30 secondes.
Il y a celui qui parle à la télé, c'est pas mal son pouvoir.
C'est Crâne Rouge qui manipule. C'est le seul moment intéressant, c'est Crâne Rouge qui manipule un petit peu la masse comme ça. De toute façon, on se doutait de qu'est-ce qu'il allait faire avec les pouvoirs qu'il avait acquis, quoi.
Je vais pointer juste quelques petits défauts quand même. J'ai bien aimé l'épisode, hein. Et franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, le but de Crâne Rouge, c'est d'éliminer les mutants. D'accord. Alors pourquoi tu engages des mutants et pourquoi tu te sers de pouvoirs mutants? C'est complètement crétin.
Eh ben, merci. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est le gros faux raccord que j'ai trouvé.
C'est des mutants qui détestent les mutants qu'il a engagés.
Oui, mais de toute façon, c'est comme l'idéologie nazie. Elle est conne du départ à la fin. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Mais là, un autre truc, moi, qui m'a profondément gêné. Bon, de toute façon, la fin de l'épisode 1, on avait bien vu le Red Skull qui prenait le cerveau de Xavier. On se doutait bien de ce qu'il allait faire avec. Effectivement, il se le met et il acquiert les pouvoirs. Donc ça, déjà, c'est complètement crétin.
Oui,
le pouvoir mutant, c'est dans ton ADN.
C'est dans les gènes, Mali.
C'est pas le cerveau.
Oui, mais c'est personnellement ce qui m'a fait sortir de l'épisode.
Bah ouais, tu vois, moi qui suis en train de lire New X-Men, c'est le truc qu'il y a en ce moment où justement il capture des mutants pour récupérer les pouvoirs, il se les greffe et ça marche. Donc c'est pas
oui, mais là
chose
c'est une
nouveau.
Greffe de cerveau, c'est pas une greffe d'ADN quoi. C'est
ouais,
ça que je veux
mais,
dire.
Enfin, ça fait partie du folklore des comics avec Arnim Zola, etc. Tous ces gens font des expériences.
Bah, déjà,
un peu bizarres,
non, mais déjà comment est-ce qu'il se greffe le cerveau de Xavier?
Il a dû augmenter sa boîte crânienne. Hein.
Voilà, oui. Moi, ça m'a fait sortir de. Ça m'avait sauté sur ma chaise, là. Mais de quoi il me parle, là? Comment
oui,
il fait
enfin, comment,
fusionner
comment
un cerveau avec un autre?
Comment c'est... Crâne Rouge fusionnait avec Arnim Zola? Comment il échangeait son corps à Captain America? Comment ceci? Comment cela? Crâne Rouge.
Non, mais là, on parle de cerveau, donc c'est.
Ouais, puis, enfin, je veux dire, voilà, tu deviens pas mutant comme ça, quoi. Tu deviens pas voilà, mutant oui, en mettant un cerveau, quoi. À ce moment-là, il suffirait simplement de manger un morceau de quelqu'un et tu deviens mutant, quoi. Ça revient au même.
Voilà, donc personnellement, ça, à moins qu'il y ait une explication que Remender nous ait pas encore donnée sur le comment du coup pourquoi il a fait.
Dans son équipe de méchants, il y en a un qui a l'air d'être un scientifique, celui qui est partenaire
oui, enfin,
à l'opération de l'avalanche. Peut-être qu'il a participé justement à l'implantation du crâne.
Ça n'empêche pas que cette idée est juste nulle, quoi. C'est pas comme ça que les mutants ça marche.
Comme dit Benny, moi je trouve que c'est une idée très comic book, quoi. Enfin.
Ouais, ouais. Moi ça me choque pas plus que ça. Et puis utiliser la force des autres contre eux, bah c'est aussi un truc classique. Donc moi ça me choque pas non plus, quoi. Qu'il utilise.
Mais bon. Moi le dernier truc qui me gêne, c'est en même temps un atout et en même temps quelque chose que je trouve très bête, c'est que d'un côté visuellement le crâne rouge a les mêmes mimiques que Xavier. Quand il utilise son pouvoir.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on sait très bien que la mémoire génétique, surtout la mémoire gestuelle, elle se transmet avec le cerveau, c'est bien connu. voilà. Donc ça visuellement c'est efficace, on reconnaît tout de suite le personnage quand on a lu beaucoup de X-Men. Ce problème c'est que comment en si peu de temps le mec peut arriver à aussi bien contrôler le pouvoir? C'est juste pas logique non plus. Ouais. On sait très bien que tous les télépathes galèrent avec leur pouvoir dès le départ. Il leur faut énormément de temps pour arriver à les contrôler. Donc,
bah
là,
non,
en fait,
Jean Grey dans New X-Men, elle a pas de mal. Hein.
Oui, mais c'est aussi un des problèmes dont j'allais parler après quand on va parler de New X-Men. C'est juste pas logique en fait. Il y a beaucoup trop de petits problèmes pour que ça rende le truc logique. Alors je le prends comme c'est que t'es un comic book de super-héros, donc ça va pas voler très loin non plus. Faut en être conscient. Mais je trouve ça dommage tous ces petits détails qui, je trouve, donnent à l'ensemble un côté un petit peu pas assez soigné. Ça m'a fait sortir du truc, ce qui fait que moi, au lieu de mettre un bail pour une série que j'avais attendue, je vais mettre qu'un check-it, parce que tous ces petits problèmes m'ont dérangé à la lecture, et du coup, j'en attends avec encore plus d'impatience la série Avengers. Tout court.
Moi, je l'attendais déjà impatiemment.
Oui, je l'attendais déjà avec impatience. Mais alors, en plus, à la fin de cet épisode-là, on a toute cette nouvelle petite page qui s'appelle The Assembly, où on nous parle un petit peu de tout l'univers Avengers. Et on nous annonce que après Jérôme Peña, dans les artistes sur Avengers, on aura Adam Cooper, Dustin Weaver et Mike Deodato. Ok, mais je veux Avengers tout de suite, moi. Je veux plus attendre. Je veux plus attendre. Ça sort deux fois par mois, mon Dieu. Mais faites-le sortir toutes les semaines. Ce sera très bien. Non, franchement, ça m'a. En fait, Uncanny Avengers m'a donné envie de lire Avengers. Voilà. Enfin bon. Et puis il y a aussi un dernier petit problème pendant que je suis sur cette page Assembly, à avoir retardé l'épisode. Du coup, on nous parle des trucs à sortir et on nous. Bon, il y a une petite erreur. Je pense qu'ils ont été obligés de le décaler. Ils nous présentent A plus X 3 avec le résumé du 2. Dommage, petite erreur. Non, c'est pas grand chose. C'est vraiment juste pour.
Bon, en même temps, l'histoire du 2.
Oui, non, mais bon, c'est juste dommage.
Tu rates rien.
Voilà, ça montre que ce retard provoque des soucis de tous les côtés, quoi. Donc, pour moi, un check-it, vos notes, ou si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y.
Ça reste un bail pour moi. Parce que ça va être la série à suivre. Il y a des trucs, effectivement, qui sont délirants et qui fonctionnent pas. Mais je pense que la manière dont Remender va développer son histoire fera que ce sera un bail. Voilà. Donc je continue à croire à ce scénariste.
Bon, pour moi, c'est un check-it. À part une utilisation intéressante du pouvoir de Malicia, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Bah, c'est vrai que là, c'est très intéressant. Très nouveau, d'ailleurs, comme façon de faire.
Oui, ça m'a bien fait plaisir. Mais après, le reste, tous les petits défauts que tu as pointés, c'est pareil, ça m'a un peu bloqué, quoi.
Mais l'histoire reste sympa. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est que l'histoire reste sympa, mais il y a trop de petits défauts qui m'ont fait sortir, quoi. C'est dommage.
Ouais,
c'est
moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de facilité, pas grand-chose qui se passe pour une attente colossale.
Bah, le problème, c'est que Remender, en général, il fait des arcs en 10 parties, et donc par épisode, parfois, c'est très lent. Hein.
Bah, le problème, c'est que si John Cassaday arrêtait de s'ancrer lui-même, puisqu'il est dessinateur et ancreur, si on confiait l'ancrage à quelqu'un, peut-être que les numéros auraient moins de retard aussi.
Arriver de toute façon, à convaincre un mec comme Cassaday, tant que ce sera Cassaday, on a vu ce que c'était sur Astonishing X-Men, on a vu ce que c'était sur Planetary, on aura du retard, c'est inéluctable. Donc faut juste changer de dessinateur et pour moi ce serait pas une grosse perte.
Je pense aussi qu'il faut un moment, il faut aussi accepter d'avoir son travail qui est ancré par quelqu'un d'autre quand on n'est pas capable de tenir du délai. Si on veut faire du comic book, il faut tenir un mensuel. À ce moment-là, on fait des one shot, on fait des mini-séries, on fait des graphic novels, mais on fait pas un mensuel. Voilà, c'est tout. C'est dommage quoi. C'est dommage. Kinghead, tu n'as pas donné ta note.
Bah
toi,
si, moi pour moi c'est un gros bail, mais voilà.
Ok, bon bah tout le monde est passé, on va continuer donc avec un coup de folie qui a pris à Sam, mon dieu, il nous hurlait dessus en disant il y a deux semaines, qu'on allait faire venir plutôt l'Apocalypse en ayant lu ça, mais il a décidé de lire le numéro 2, c'est la suite de A plus X.
Bah oui, parce que j'ai vu hier que c'était écrit et dessiné, enfin la première partie par Chris Bacalo, donc du coup je suis allé voir, donc c'est la rencontre Rogue-Black Widow, et... Autant le dire, l'histoire n'est qu'un prétexte, parce que c'est du n'importe quoi.
On l'a dit, de toute façon, c'est AVX versus, mais où ils sont potes, c'est tout.
Voilà, et c'est juste hilarant. C'est-à-dire que comme Bacalo sait qu'il n'y a pas d'histoire, il mise à fond sur l'humour. Du coup, ça fonctionne très bien. Donc, la première partie, pour moi, est très bonne. Ensuite, la seconde partie, c'est la rencontre Kitty Pryde-Tony Stark, avec Tony Stark qui veut embaucher Kitty Pryde. Ah, et une conclusion, là aussi, très drôle.
Alors effectivement, je vais faire un petit erratum par rapport à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Donc effectivement, l'histoire Spidey et Beast, c'est bien dans le 3 et ça a été décalé alors que ça avait été teasé pour être dans le numéro 2. Mmh.
Donc voilà, donc un épisode qui est avant tout mis sur l'humour, parce que je pense que tous les deux scénaristes ont compris que niveau histoire, c'était pas le truc du siècle hein, qui devait faire. Et voilà, c'est un bon check-it pour moi, pour une série que j'avais pas prévu d'aller voir.
Et juste une question moi par rapport au numéro 1, est-ce qu'il y a la suite un peu de cette histoire avec le Hulk
Du tout.
D'accord, ok.
Ah non,
donc
c'est uniquement Kitty Pryde, voilà. Ah non, ça avait été dit à suivre dans le Marvel Universe.
D'accord,
donc,
moi je croyais que c'était un fil rouge pour A+X.
Du tout. D'accord. Du tout.
Mais tu comprends du coup pourquoi on avait plutôt bien apprécié avec Bunny il y a 2 semaines cette histoire avec Cap et Cable qui était complètement conne mais complètement fofolle quoi.
Voilà. Mais écrite par Dan Slott, c'est ça?
Oui, écrit par
Jeff Flob. Pas le truc par Jeff Flob, hein, rassurez-moi.
Ouais, non, ça c'était. D'accord. Bon, quoi que ça avait fait marrer Bunny, l'homme à moustache.
Moi, si ça vous avait fait marrer.
Le Hulk à moustache, ouais.
Voilà, mais bon, moi c'est surtout la partie dessinée par Chris Bacalo.
Toi aussi, je sais ce que tu regardes sur YouTube.
Voilà. Rien que pour voir Rogue embrasser Black Widow, ça le vaut le coup.
Ok, allez, on va passer. On va continuer sur l'univers X-Men, l'univers mutant, avec la sortie du All New X-Men numéro 2, Bunny.
Ouais, Brian Michael Bendis est au scénario, Stuart Timonen au dessin, Wade Von Kraubiger est à l'ancrage. Alors, c'est déjà graphiquement, c'est superbe. Je suis pas un super gros fan de Stuart Timonen, mais là, franchement, il défonce tout sur All New X-Men. Très très beau travail. Et scénaristiquement parlant, c'est super sympa, je trouve. Bonne surprise qu'il y a de cette série. Alors Beast est dans le futur, dans le passé, pardon.
Il a été chercher les 5 X-Men originaux du futur.
Il est allé chercher le supérieur Spider-Man.
Voilà. Non, Beast qui est mal en point.
Parce qu'on sait maintenant, ça a été teasé hein, cette semaine, hein, supérieur Spider-Man, c'est Cyclope. Qui est Bucky, qui est Hawkeye.
Donc si vous êtes perdu, c'est pas de ma faute là cette fois-ci. Mais par contre, donc Beast, il a un petit peu le rôle de Cable au fait dans je sais plus comment s'appelait cette daube Extinction. C'est-à-dire c'est le mutant qui est en fin de vie et qui a vraiment peu de temps. Apparemment, il en a vraiment très très peu puisqu'il est en piteux état durant cet épisode. Et donc il est allé chercher les X-Men originaux pour faire que le Scott Summers de l'époque se confronte au Scott Summers présent et essaye de lui faire entendre raison. Voilà, ça c'est son plan de base. Alors, ce qui est assez marrant, c'est la confrontation entre le Beast de maintenant et puis l'équipe du passé, avec des dialogues à la Bendis du style Scott Summers, oui, Scott Summers, oui, le Scott Summers, oui, oui, voilà. Je déconne à peine. Hein.
Non,
tu déconnes pas du tout même.
Oui, enfin ouais, je crois que c'est ça quasiment. Mmh. Et bon, enfin, ils arrivent dans le présent. Alors il y a beaucoup de scènes que j'ai adorées. Ils découvrent la nouvelle école de Xavier qui a beaucoup changé depuis leur départ. Et puis ils font aussi connaissance bien sûr avec Wolverine, qui est très surpris de voir l'équipe des X-Men originaux. D'ailleurs, qui fonce dans le tas dès le début. Bon, il y a pas mal de gags, il y a la rencontre des deux Iceman aussi qui est très drôle. Bref, je passe les détails et on se quitte sur un bon petit cliff, je trouve. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment la très très bonne surprise de ce Marvel Now et c'est vraiment la série qui me faisait le plus peur à la base. Donc c'est vraiment une grosse réussite pour moi.
Bah, c'est celle qui avait le pitch le plus incongru, quoi. Aller chercher les X-Men du passé. D'ailleurs, ça a été révélé cette semaine. Les X-Men du passé. On sait à quel moment Beast a été les chercher. Ça n'a pas été dit dans le comic. Je ne sais pas si ce sera dit plus tard, mais en tout cas, Bendis a répondu à la question. Ils viennent juste après le X-Men 8. Donc c'est entre le X-Men 8 et le X-Men 9. Le X-Men 9, c'est celui où vous rencontrez les Vengeurs. Donc ça peut peut-être avoir son importance. Voilà. Donc bon, au moins ça a été dit, quoi.
D'accord.
Corwin, tiens, je sais que tu l'as lu toi aussi.
Oui, ben je rejoins Bunny sur ce qu'il a dit. Hein. Je vais la faire simple. Non, graphiquement c'est magnifique. Hein. Moi j'aime beaucoup. J'en perds mes mots. C'est il y a un beau trait, il y a de belles couleurs, ça sert bien l'histoire.
Kim Onan sur les Avengers et sur Fear Itself par exemple, je trouvais pas ça extraordinaire comparé à là où vraiment on sent qu'il est à l'aise.
Là voilà, et puis ça retranscrit bien l'ambiance, je trouve, enfin c'est vraiment chouette. La lecture est agréable rien que pour ça. Ensuite, comme tu l'as souligné, le pitch avance c'est vraiment intriguant. Alors en plus, j'ai la réponse à ma question d'il y a deux semaines de comment il est passé dans le passé. Donc ouais. Je dis plus rien là-dessus.
Et qu'est-ce que j'avais dit?
Oui, tu avais raison, c'est tout. Enfin, j'étais trop pressé.
Ouais, non, mais en fait, c'était logique. On sait très bien que Doom a cette machine, voilà, et avec Reed Richards, enfin, c'était logique, quoi, que ces deux-là soient impliqués.
Oui, oui. En plus, comme ça, il a pas une machine toute pourrie comme Cable. Enfin bon. Mais non, c'est une série qui, pour l'instant, est intéressante et qui promet beaucoup de choses par la suite. Que, enfin, moi, j'irai voir les yeux fermés au moins pour 3-4 numéros, quoi. Au moins jusqu'à la fin de l'arc, en tout cas.
Puis en deux numéros, il s'est passé des choses.
Oui, ça a énormément avancé.
Alors que je trouve que à côté de ça, Uncanny Avengers, ça avance beaucoup moins. Justement.
King Ed, tu as envie d'en dire un mot?
Oui, moi je suis un petit peu moins emballé, même si Immonen est en grande forme, ça c'est sûr. Par contre, je trouve qu'au niveau du scénario, c'est vraiment clairement facile et il y a des grosses réminiscences, je trouve, avec la mini-série Spider-Man, où en fait Bendis nous refait un peu toujours la même chose, à savoir faire rencontrer deux personnages qui ont vécu des choses différentes, ils se rendent compte que telle personne est morte dans leur réalité, machin, tout ça. Je trouve que ça joue exactement sur la même corde, ça cherche les mêmes choses. Donc là, pour moi, je trouve que c'est un petit peu facile de la part de Bendis. Après, moi, je trouve que c'est vraiment la lecture blockbuster, assez brainless. Ça se laisse lire. Mais franchement, j'ai trouvé le scénario d'Uncanny Avengers plus intéressant et...
Pourtant, Uncanny Avengers, niveau sans cervelle, ça se pose là, hein.
Ouais, mais je trouve qu'il y a plus de choses, plus de matière.
Je pense qu'on peut décerner à Bunny la vanne du soir.
Ouais, c'est sûr. Ouais, mais il y a plus de matière, je trouve. Et puis là, je trouve que Bendis, il y va un peu trop dans la facilité par rapport aux conséquences du voyage temporel, quoi.
Ah bah c'est marrant. Non mais moi je suis pas d'accord sur la matière. Je trouve qu'il y a carrément plus matière là-dedans que dans Uncanny Avengers, dans lequel je ne trouve quasiment rien. En tout cas dans le deuxième épisode.
En tout cas pour moi c'est juste un check-in de plus.
Sam, pour toi, je sais qu'il y a des choses qui t'ont gêné donc.
Je vais aller dans le sens général, dans le sens où c'est agréable à lire. Voilà, il y a des bonnes choses dedans, mais c'est extrêmement frustrant à la lecture et pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est pas frustrant parce que ça laisse sur un cliff énorme à la fin du 2 et faut absolument aller voir la fin du 3, le 3 et on peut pas s'en passer. C'est frustrant parce que je trouve que, contrairement à ce qu'a dit Bunny ou Corwin, ça n'avance pas assez vite par rapport à ce que ça devrait. C'est-à-dire que
Oui, enfin, c'est
pour.
Bendis en même temps.
Voilà,
Hein.
bah, le problème c'est que pour moi, la fin du 2, on aurait dû l'avoir la fin du 1. C'est-à-dire condenser les deux premiers épisodes en 1. Voilà, le fait qu'on commence par exemple les premières pages, on a Kitty Pryde à l'extérieur du labo de Beast, mais qu'est-ce qu'on a à s'en foutre? Et Bendis perd 2 pages là-dessus. Ça
Oui, mais
n'apporte rien.
ça,
Je
c'est la
vois pas.
spécialité de Bendis, de faire des petites scènes
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein d'à
qui donnent du
côté.
contexte, qui donnent du contexte, voilà, mais qui n'apportent rien
Il y a beaucoup
de
d'à
plus à
côté.
l'histoire.
Je vois pas en quoi c'est plus des à côté que Remender sur
Non, non, mais
Uncanny
je vais
Avengers.
pas revenir sur Uncanny Avengers. Le fait est
Bah
qu'il
oui, non,
s'attarde
mais
sur des à côté qui bout du temps et qui l'empêche de finir sur un bon cliff. Pour moi, un bon cliff, ça aurait été les 5 premiers X-Men face au Cyclope de maintenant, dans la dernière page.
Ah mais qui dit qui partent vers Cyclope?
Voilà. Ben, non, mais je dis pas que c'est ça. Je dis ce qui aurait été un bon cliff de fin d'épisode. J'utilise le conditionnel. Attention.
Oui, non mais rien ne prouve que les 5 X-Men du passé vont se retrouver face à Cyclope.
D'accord, mais qu'est-ce que je
Dans
viens de dire?
dans ce premier arc. Non mais
Non,
je
mais
veux dire.
Steve, je viens d'employer le conditionnel.
Oui, je sais, mais ce
C'est-à-dire,
que je veux.
si les 5 X-Men, là, s'étaient retrouvés à la fin du 2 face au Cyclope de maintenant, ça aurait été un bon cliff de fin.
Bah, de toute façon,
J'aurais
non,
préféré ce cliff
puisqu'on
de
se
fin à
doute.
celui qu'il utilisait là, qui est. Il aurait mis ça au milieu de l'épisode, ça aurait été la même chose pour moi.
Ouais, c'est pas un vrai cliff, hein, moi je trouve la fin.
Voilà, oui,
Bah,
mais c'est un peu le
et dans
problème.
l'autre. Attends, je suis désolé, franchement, vous êtes de mauvaise foi, c'est pas possible. Rick Remender, c'est quoi son cliff dans Uncanny Avengers?
Ah, mais j'ai pas dit que c'était le point fort de Uncanny Avengers,
Mais
et je
moi
crois
non
pas que
plus.
Sam soit fan de Uncanny Avengers non plus, mais.
Non, j'ai
Non, mais
dit que
enfin, je
c'était
veux
un
dire,
bail pour la globalité du
on a l'air
truc.
de dire, on a l'air
Le
de dire, X-Men n'est pas hyper impressionnant, quoi,
mais
enfin.
ça, et ça c'est un truc qui récurrent chez Bendis, il ne sait plus faire des clips de fin intéressants, des vrais. C'est-à-dire que avec
Mais
lui,
il y
tu
en a
pourrais mettre
plein,
le
il y en a
truc à
plein où
n'importe.
il y a plein où il y a pas de cliff, quoi. Tu regardes,
Oui,
X,
et
je
c'est un
sais
truc
pas.
qui s'est
Le
perdu.
truc, c'est qu'on n'essaye pas de comparer avec d'autres séries, on essaye de
Oui.
comparer par rapport à ses anciens travaux. On est habitué maintenant à Bendy, ça fait
Voilà.
8 ans qu'on le
Et
suit sur Avengers, et on voit la façon qu'il a de traiter les histoires maintenant. Et on a tous les problèmes habituels de Bendy dans cette
bah
histoire.
justement, je trouve pas, parce que j'aime bien ce cliff. Justement, tu sais pas où qu'est-ce qu'ils vont faire.
Mais si tu le
C'est mieux,
sais.
justement, que de le voir, que de te montrer, voilà, ils sont face à un truc muche. De toute façon, ça, tu t'en doutes.
Mais je dirais que ça c'est général aux comics d'aujourd'hui qui ne savent plus faire vraiment de vrais cliffs de fin. À part des exceptions ben, comme la fin du Uncanny Avengers 1.
Oui.
Voilà, là où là, t'avais un gros cliff, et à chaque fois, ça, voilà, quand t'as un vrai truc qui normalement il y a 30 ans, c'est le truc normal, là non, on sait plus faire quoi. Voilà, donc ça va être un bail pour moi, parce que c'est une bonne lecture quand même, mais j'aimerais un peu que Bendis arrête les à côté, se concentre sur bah, l'essentiel. C'est vraiment ça, j'aimerais qu'il fasse l'essentiel et pas juste les trucs qui l'amusent.
Ouais, enfin, bah, pour une fois, je défendrai Bendis en disant qu'ils sont pleins à être dans le même cas et je vois pas pourquoi Bendis plus qu'un
Ben
autre.
non, mais parce qu'il écrit le titre quasi phare de la franchise, donc on attend plus de lui. C'est pour ça.
Ouais,
Moi, je dirais que c'est un épisode qui est plutôt bon dans l'ensemble. Hein. Moi, j'avais bien aimé le 1, même si ça prenait son temps. C'était une bonne lecture sympathique. Là, on a une lecture aussi très sympathique pour ce numéro 2. Je vais revenir sur la chose dont on a très brièvement parlé tout à l'heure dans le Uncanny Avengers. C'est Jean Grey. Jean Grey qui se retrouve au temps présent. Et parce que Beast lui a dit qu'elle était télépathe et qu'il se rend compte qu'elle n'était pas encore télépathe au moment. Pardon, excusez-moi, il y a une portable qui a sifflé, donc je vais reprendre. Je disais oui.
Jean
Donc
Grey.
parce que Beast lui a dit qu'elle était télépathe dans le passé et qu'elle ne l'était pas encore à ce moment-là, elle arrive dans le présent, elle teste et oh ça marche et en plus elle arrive à assommer Wolverine.
Qui
Sérieusement.
normalement a des défenses Weaponics, hein. Rappelons-nous, hein,
Oui,
qu'il y a
oui,
des
oui.
écrans mentaux. Donc une jeune télépathe qui vient juste de découvrir son pouvoir, c'est suffisant pour le mettre KO.
Et y a pas un truc qui vous a
Et
paru bizarre aussi quand est-ce que
moi.
c'est Attends, juste un truc,
Et oui.
est-ce que quelqu'un a tiqué quand ils ont dit qu'ils avaient 12 ans?
Oui, moi
Parce que les
ça m'a
Imonen
fait
les dessinent
sursauter.
pas du tout comme des persos qui ont 12
Non,
ans.
ils ont 15 ans, hein,
Ouais, ils
minimum.
ont 15 ans en plus,
Alors
ça a
est-ce que
toujours
c'était
été
une
dit dans
blague
l'histoire qu'ils avaient 15 ans.
Ou
Oui,
ça,
mais
ou tu vois qu'ils
à un
ont.
moment, je crois que c'est Kitty qui dit à Beast du passé, ouais, mais de toute façon, t'as
Non,
12
mais c'est
ans.
une blague. C'est une blague.
D'accord, non, mais parce que je
Ah,
me
vous avez pas
demandais,
compris que
parce
c'était
que.
une blague? Non, mais ça, c'est un
Non,
truc
j'avais
récurrent
pas
chez
compris.
Bendis, hein.
D'accord.
Ouais, enfin, qu'importe. Moi, je dirais, je sais plus.
C'était par rapport à Jean, sûrement, et sa télépathie, non, que tu voulais réagir.
Oui, voilà. Moi, je l'ai compris dans le sens où le fait qu'ils aient un petit peu modifié l'espace-temps puisqu'ils se retrouvent dans le temps présent alors qu'ils n'ont rien à foutre là, fait que ça a enclenché les pouvoirs qu'ils auraient dû découvrir par la suite.
Non, du tout, hein. C'est juste que Beast lui en a parlé, point. Voilà. Ah bon, bah, je peux être télépathe,
bah,
je teste.
À ce
moment-là,
Iceman devrait avoir des excroissances comme d'ailleurs sa rencontre avec le Iceman du présent,
oui,
et il se retrouve.
Bon. Oui.
Et Beast devrait devenir tout bleu, hein. Aussi.
Oui, mais peut-être qu'ils vont évoluer d'un seul coup.
Voilà, et comme tu disais, Steve, la télépathie, c'est quand même à la base un pouvoir très instable, très difficile à contrôler.
Oui. Et
là,
on voit bien
jeu
que
Jean
Grey lutte dans les premiers épisodes des X-Men quand elle commence à découvrir qu'elle a des pouvoirs télépathie, elle galère vachement et elle a absolument pas de puissance de télépathie. Mm-hmm. Sa puissance s'acquiert au fil des ans,
années,
quoi, et au fil des épisodes.
Moi, il y a un truc que je trouve bizarre aussi, c'est comment ça se fait que Xavier les a pas repéré que Beast était arrivé dans le présent. Parce que bon, c'est
oui,
le genre de
sais.
Truc en tant que super mutant.
Mais je crois
mental.
Qu'il disait que Xavier n'était pas là, c'était pour
c'est,
ça.
C'est justement pour ça que ça a été prouvé, enfin ça a été dit que Bendis a expliqué que c'était entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Dans l'épisode 9, justement, cette première rencontre avec les Avengers, Professeur Xavier part en Europe pour aller chercher Lucifer dans les cavernes.
D'accord.
J'avais fait justement le Unspoken, c'était la première rencontre des Avengers et des X-Men, enfin dans l'espèce de dossier que j'avais fait, et c'est justement à ce moment-là, avant que les X-Men aillent le rejoindre en Europe.
Donc il était plus loin, donc peut-être qu'il les avait pas, il avait pas senti Beast. Ok, d'accord.
Exactement. Bon, enfin, franchement, moi.
Et puis
c'est
de
vrai
toute façon,
ce...
même s'il l'avait senti, tout ce qu'il aurait senti, c'est Beast. Et donc il aurait senti Hank McCoy, c'est tout.
Ouais, enfin, il aurait senti deux Hank McCoy, et là, il aurait eu un problème, quand même.
Peut-être pas, peut-être que quand il y en a deux de le même individu.
Non, mais enfin, c'est...
La discussion geek, tu sais.
C'est beaucoup, enfin, je veux dire, le fait d'imaginer qu'elle gagne ses pouvoirs, qu'elle gagne du pouvoir parce qu'elle est passée dans le temps présent, alors qu'elle est juste une... Enfin, qu'elle a pas bougé, en fait, en termes d'âge. Enfin, voilà, pour moi, c'est comme avec Uncanny Avengers, il y a des libertés de prise par rapport au pouvoir qui me dérangent fortement, et on est en train de modifier l'essence même de ce qui fait des mutants dans deux des titres flagship de chez Marvel, et je trouve ça quand même très gênant. À ce moment-là, on va tout réécrire. Pour moi, c'est un peu facile. Il y a des bases qui sont posées depuis 50 ans, qu'on les fasse évoluer, je suis d'accord. Mais là, c'est pas les faire évoluer, on les réécrit. Un petit peu dérangeant pour moi. Donc, pour moi, ça reste un bon épisode qui se lit vraiment bien. Bon, c'est du Bendis, donc c'est relativement agréable à lire quand même. Je vais dire un bail, mais franchement déçu par cette facilité de Jean Grey avec une télépathie, quoi. Avec une télépathie, pardon, qui n'est plus naissante, mais totalement totalement surbalèze, quoi. Je trouve ça dommage.
Ouais.
Pour moi, c'est un bail aussi. J'ai vraiment apprécié cet épisode.
Ouais, moi, un bon bail, malgré quelques petits défauts, mais qui m'ont pas trop dérangé. Je trouvais qu'il y en avait plus dans l'autre, justement. Donc...
Ouais, mais bon, quand t'écris une Uncanny Avengers que tu plantes sur des mutants, ça peut. C'est pas normal, mais ça peut se comprendre parce que t'écris à moitié des mutants, à moitié des Vengeurs, donc tu peux te gaufrer. Mais quand t'écris une série que mutante, là quand même ça fait beaucoup.
Non.
Ah bah si, t'es censé voilà. connaître les mutants sur le bout des doigts. Hein.
Voilà. En parlant de série mutante.
Je vois pas
transition.
La transition.
X-Men Legacy.
Si, X-Men Legacy.
Ah, X-Men Legacy, pardon, je le voyais plus sur le programme, excusez-moi.
Oui, je vais aller très vite. C'est le numéro 2, donc, avec Simon Spurrier au scénario et Tan Heng Watt au dessin. Donc, on continue de suivre Légion qui a pété un plomb en apprenant la mort de son papa. Et c'est toujours aussi barré que le premier épisode, voire même un peu plus. Donc il lutte à l'intérieur pour reprendre le contrôle, il lutte à l'extérieur pour survivre parce qu'il est en plein milieu de la Chine. Il rencontre un mec, un mutant, bizarroïde, à moitié... Enfin, il est constitué de plein de choses différentes, je sais pas, des peaux de bête, des yeux qui flottent... Bref, ça part dans tous les sens. Il y a quand même des X-Men qui apparaissent. Une équipe menée par Wolverine et Tornan, où on retrouve Fauve, il y a aussi Blindfold, Chambers, qu'on n'avait pas vu depuis un bout de temps, et la dernière, je sais plus qui c'est.
Bah, Chambers, on le voit un petit peu passer dans Wolverine and the X-Men en tant que prof, quoi, très rapidement.
Oui, bah là, il fait partie de l'équipe qui va sur le terrain, et donc ils essayent de le retrouver pour essayer de comprendre un petit peu ce qui lui passe par la tête, puis lui apprendre que son père est mort. Donc voilà, ça aussi, entre la réalité et le cerveau de Légion, c'est vraiment spécial. Donc, allez, j'ai envie de continuer à aller voir un petit peu ce qu'ils vont développer par la suite, mais si ça continue comme ça, je vais pas tarder à arrêter. Donc, ça sera un petit check-it, quoi.
Je sais pas, moi, tu vois, je l'ai pas encore lu, je le réserve pour un moment où je serai plus posé, parce que...
Il faut le lire à tête reposée.
Mais c'est vrai qu'en y repensant au numéro 1, avec le recul, le truc était pas mal, quoi.
Ouais.
Je sais pas. En plus, j'ai vu beaucoup de reviews sur le net qui ont mis vraiment une note surprenante. Et je sais pas, j'irai voir le 2 quand même. J'irai le lire. De toute façon, je l'ai juste pas encore ouvert, mais je sais pas si cette série pourra trouver sa place, franchement.
Oui, voilà. C'est vraiment spécial, donc. Il y a des moments où je me suis dit waouh, ça va où, et il y a d'autres moments où je me fais ah ouais non c'est pas mal, donc là je suis un peu hésitant dessus et
je sais pas comment vous avez fait pour trouver des qualités, parce que...
Mais j'espère que cette série va trouver son rythme et que ça marchera derrière, que ce sera intéressant, mais pour l'instant je trouve que ça cherche encore un peu, il y a du potentiel mais pas encore ça, quoi.
Il manque un truc, voilà.
Ouais, il manque un petit truc.
Ok, ben on va terminer les reviews de la semaine avec la sortie du FF numéro 1, scénarisé par Matt Fraction, le petit ami de Sam. Enfin non, je voulais pas le dire comme ça en fait, mais c'était voilà le très grand copain de Sam, voilà. Mais c'est sorti en petit ami, ça pouvait porter à confusion. Et les Allred, donc Michael au dessin et à l'ancrage, ainsi que Laura à la colorisation. Les Allred qui nous font un travail magnifique.
Bah, c'est magnifique. Hein.
Bah, si on aime les Allred.
Oui, si on aime le style Allred. Ouais.
C'est vrai que leur style est quand même particulier. Et, j'avoue que je suis pas méga fan. Bon, c'est sympa, mais je sais pas. J'ai toujours du mal à accrocher.
Il y en a de partout. Il y a des petits détails partout. Tu vois par exemple sur les cases Mister Fantastic qui passe entre les cases et qui se retrouve dans une autre case. Enfin, il y a beaucoup de petites recherches comme ça.
Et ça se prête bien au ton de la série, en plus.
La page où elle va récupérer Médusa et où tu vois New York de haut, c'est super beau, je trouve. Hein, c'est...
Ah ouais, ouais.
Elle est super, cette page.
Ouais, c'est clair. Tu la vois monter sur ces petites, sur ces espèces de petits champs de force. Ouais. Enfin, non, c'est quelque chose qui sied vraiment, je trouve, au Allred, quoi. En termes de graphisme, ce côté déjanté, complètement foufou. Quand tu regardes, il y a plein de petits trucs. Tu regardes les cheveux de Médusa quand elle parle de Black Bolt et tu vois que ses cheveux forment un cœur, en fait. Il y a plein de petits détails comme ça. Ça prend le temps de se regarder et ça s'apprécie autant en termes de lecture qu'en termes de visuel, tout simplement. Quant à l'histoire, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre avec le premier épisode de Fantastic Four. Ils vont partir dans l'espace et donc ils vont chercher des remplaçants. Jusque-là, rien de neuf, quoi. C'est vrai que c'est peut-être le petit défaut, c'est que ça avait été tellement bien sollicité que on sait à peu près tout. Bon, il y a quand même des phases de dialogue qui sont très agréables et qui se laissent lire et qui peuvent faire marrer, notamment la discussion entre She-Hulk et Thing, qui est vraiment énorme, plein de sous-entendus sexuels, qui m'a vraiment fait marrer, notamment ce coup de 4 minutes, ça m'intrigue.
et surtout, elle arrive à faire mouiller la chose. Ah non, mais moi, ça m'a fait hurler de rire, ce passage-là.
Le seul point dommageable que je trouve dans cet épisode en termes de caractérisation, c'est la caractérisation de Johnny Storm, qui est redevenu l'espèce de...
Débile.
D'homme à femme, débile, qui ne pense à rien, qui ne retient rien et qui ne voit que sa petite personne. Alors qu'après avoir passé un an dans la zone négative, il avait quand même vachement gagné en réflexion. 2 ans même, ouais, pardon.
Oui, j'ai l'impression que Matt Fraction est reparti... En fait, il écrit les Fantastic Four tels qu'ils étaient il y a bien longtemps. Et au fait, il tient mieux la FF que les Fantastic Four. De manière générale.
Les Fantastic Four, il les tient, il se sert quand même de certains trucs qu'avait mis en place Hickman, mais c'est vrai que pour Johnny Storm, il se sert pas du tout de ce qu'avait laissé Hickman sur le personnage. C'est un petit peu dommage de le revoir un petit peu bêta comme ça. Ah, il fallait que je te parle d'un truc, enfin. D'un truc, donc, de something.
Ouais.
Voilà. Et donc, il parle de la chose à sa copine. Enfin. Oui, la blague est peut-être, on va dire, fait sourire, mais la caractérisation de Johnny Storm est dommage parce que, enfin, c'est quand même un personnage qui a évolué, quoi, qui a gagné en maturité, et là, il est redevenu, un gamin, quoi. Un gamin dans le corps d'un adulte.
Bon, un adolescent.
Voilà, ouais. C'est ça, merci.
Mais globalement, je suis un petit peu resté sur ma faim. On voit très clairement comment va se découper l'épisode avec des séquences en alternance de confessionnal type ce que faisait Bendis ou ce qu'on avait dans Les Gardiens de la Galaxie récemment.
Oui, mais qui trouvent leur explication à la fin.
Ouais,
ouais. Mais enfin, on comprend assez vite de quoi ils retournent. Puis c'est entrecoupé de scènes où ils vont recruter cette équipe qui va garder au fait la tour pour 4 minutes théoriquement. Ce qui est toujours un peu ridicule quand même.
Mais on sait en plus que très bien que ça va pas forcément bien se passer. On le sait dans l'entrée.
De toute façon, sinon on n'aurait pas d'histoire.
Matt Fraction explique justement si on regarde le truc AR, donc le truc en augmented reality, que en fait c'est tout simple. L'épisode 2 de FF, hein, ça suit dans l'épisode 2 de FF et de Fantastic Four pardon, et que l'épisode 2 de FF clôturera ce premier arc en fait qui sert à lancer les deux séries. Voilà. Donc il y en a pas pour très longtemps avant que les histoires se séparent un petit peu chacun de leur côté. Au moins on n'aura pas un arc de 6 dans chaque quoi. C'est déjà plutôt bien, je trouve.
Ouais. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé Matt Fraction assez drôle mais beaucoup moins inspiré niveau blague que sur Hawkeye. Et puis d'ailleurs, je suis impressionné parce que finalement, Matt Fraction, il est sur FF, sur Fantastic Four, sur Iron Man, sur Hawkeye, mais il fait combien de séries au fait en tout?
Ah non, c'est pas lui sur Iron Man, c'est Kieran Gillen.
Ah, t'as raison.
Heureusement.
T'as raison. Oui, heureusement. Donc il en fait 3 au fait.
Oui, mais c'est classique. Hein.
Il devrait se contenter de faire de l'humour plutôt que du mainstream pur et dur.
Il fait de l'humour avec FF.
Oui, il fait de l'humour, mais c'est moins inspiré, je trouve, que Hawkeye.
En même temps, il y a plus de personnages à gérer, donc il faut essayer. Quand tu as plus de personnages, tu peux pas faire le même type de blague. Avec Hawkeye, le même style d'humour peut passer sur 20 pages. Si tu fais exactement le même style d'humour sur 4 ou 5 personnages différents dans 20 pages, ça va se voir et c'est dommageable aussi, quoi.
En tout cas, Hawkeye, c'était un gros coup de cœur. Là, ce sera plus un bon check-it. Voilà, c'est pas extraordinaire. Je trouvais ça sympa sans plus.
On va passer la parole à notre anti-Matt Fraction du groupe. Sam, qu'as-tu pensé de ce FF?
T'as vraiment besoin de me demander?
Est-ce que c'est pour toi aussi un gros FF?
Non. Franchement, ça m'a laissé complètement indifférent. J'ai pas rigolé vraiment, ça m'a pas intéressé à un quelconque moment.
Étais-tu objectif à la lecture au départ? Sois honnête.
Je sais pas, le Fantastic Four m'avait tellement fait chier. Voilà.
Oui, donc t'es parti pas objectif en fait, t'es parti déjà en disant ça va être chiant quoi.
Voilà, oui, et l'épisode a confirmé. Donc ça sera un pass et.
Comme vous étiez parti sur le cliff, Bendis ne sait pas faire de cliff, etc. Là, il y a un cliff.
Bah, il y en a pas.
Ah, bah là, il y a pas de cliff, mais ça on le savait.
Bah, pourquoi vous le saviez?
Bah, on le savait parce que tout avait été expliqué dans les sollicitations.
Bah alors c'est encore mieux, tiens. C'est encore
mieux.
Ah
non, mais c'est assumé du départ qu'il n'y aura pas de cliffhanger, donc c'est pas gênant.
Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'histoire, hein, mais c'est pas grave.
C'est un numéro.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, par contre, je suis pas d'accord.
C'est un numéro qui est là pour planter le décor. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un cliffhanger. Tu l'achètes, tu sais que voilà, on va t'exposer un petit peu qui
d'ailleurs
va venir faire quoi et c'est tout. Il sert
d'ailleurs,
à ça.
D'ailleurs, moi j'ai été déçu aussi. Il y a un truc que j'attendais qu'on nous explique et bon, c'est pas pour maintenant. C'est qu'est-ce que c'est que cette Misting on voit que c'est la copine on se doute que c'est la copine de Storm, mais pourquoi est-ce qu'elle est dans le corps de la chose? Est-ce qu'ils vont fusionner? Qu'est-ce qui se passe quoi?
Non, mais est-elle vraiment dans le corps de la chose? Est-ce que c'est pas juste genre un déguisement cosplay quoi?
J'ai regardé sur la couverture preview de Fantastic Four. Est-ce que la chose part dans l'espace finalement?
Oui.
Ah bah oui.
Non mais Misting c'est quelque chose qui a vraiment existé, un personnage qui était dans un costume de la chose en fait. Il y a des vieux numéros de FF
simplement...
où ce personnage a été présenté.
Elle va peut-être tout simplement reprendre un costume de la chose.
Mais
elle va pas faire une danse comme dans Dragon Ball pour fusionner avec, hein, rassure-toi.
Mais ça sera expliqué dans le prochain numéro je pense, parce qu'elle on la voit très peu en fait.
Mais de toute façon, chaque personnage qui va remplacer le membre des 4 Fantastiques a les mêmes qualités, les mêmes défauts que lui. On a un scientifique pour remplacer Reed Richards, on a une femme aimante de sa famille et de son mari pour remplacer Sue Storm, et on a
ça,
pour remplacer Thing.
C'est le pouvoir non, d'aimer sa famille.
De... non, c'est les mêmes. C'est, on parle pas des pouvoirs. De toute façon, le pouvoir de Scott Lang n'est pas du tout le même que celui de Reed Richards.
Oui, non, mais t'avais dit le même pouvoir au début.
Non, les mêmes qualités, les mêmes défauts, en fait. Et tu regardes la personne qui va remplacer la chose, c'est quelqu'un qui fonce tête baissée, c'est She-Hulk. C'est exactement la même chose. Donc, du coup, pour remplacer Johnny Storm, il faut quelqu'un d'un petit peu foufou, quoi. Un petit peu. Cette caractérisation qu'on a redonnée à Johnny Storm, quoi, malheureusement.
Ouais. Moi, j'aimerais bien parler parce que moi, je connaissais pas du tout les FF, en fait, et je me suis dit, comme j'ai commencé Fantastic Four, je vais lire aussi FF en parallèle. Et j'étais ravi que ce numéro, en fait, soit un bon prologue, puisque c'est un bon point d'entrée qui présente un peu tous les personnages. Il y a justement cette façon où chacun des membres de la Future Foundation raconte un peu qui il est. Ça permet aux nouveaux lecteurs de vite se rendre compte des membres de cette équipe.
Te connaissant, je parie que tu adorais Bentley.
Ah, Bentley était très drôle, mais franchement c'était vraiment sympa. Et vous êtes passé aussi, enfin vous en avez pas parlé, mais j'ai trouvé que il y avait beaucoup d'humour, mais il y a quand même eu aussi des moments très touchants avec le personnage justement de Scott Lang qui, par rapport à la mort de sa fille, ne voulait plus justement avoir de relation avec des enfants. Enfin, il savait pas s'il allait pouvoir trop gérer ça. Et ça, je trouve que c'était relativement bien écrit de la part de Matt Fraction, et il y avait quand même des moments aussi un peu tendres et puis un peu difficiles. Des choses qu'on avait vues déjà un petit peu dans le point one, où on voyait que le personnage avait du mal à gérer la mort de sa fille. Et
ouais, puis une mort d'ailleurs qui, je le rappelle, s'est passée dans cette série qui, pour beaucoup, n'a servi à rien, mais du coup, voilà, comme quoi il s'est passé des choses dans cette fameuse série The Children's Crusade. Putain, c'est dur à dire à chaque fois.
Donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Après bon, c'est plus un point one presque qu'un vrai numéro un. C'est un prologue un peu, et j'ai envie de voir la suite quand même maintenant. Donc pour moi ça, c'est un bail.
De toute façon, moi j'ai signé pour les deux séries là pour le moment. Je vais attendre de voir la fin de l'arc et surtout attendre de voir le début du prochain. Et après je reprendrai une décision. Mais là pour le moment, moi ça m'a plu, quoi. Ouais. J'ai d'ailleurs même préféré FF à Fantastic Four.
Ouais, moi j'ai préféré FF à Fantastic Four, mais par contre les deux c'est juste des check-in plus.
Pour moi, celui-ci est un bail, hein, notamment aussi grâce à la partie graphique de
pour les dessins.
Oui. Bah moi, comme Kinghead, hein, je me suis mis au 4 Fantastiques là, avec cette nouvelle vague. Et je dois avouer que ce FF m'a également bien plu, quoi, autant graphiquement que par rapport à l'histoire qui est drôle, qui plante le décor. Donc ça fait le boulot. Moi, c'est ce que j'en attendais. Donc voilà, c'est pareil que Steve, j'irai voir au moins jusqu'au début du prochain arc pour voir un petit peu comment tout ça va se mettre en place. Donc je dirais un petit bail.
Très bien, eh bien c'est tout pour les reviews de la semaine. C'est déjà énorme étant donné qu'on a énormément dépassé le temps prévu. Mais en même temps, vu la quantité de titres qui sortaient cette semaine, c'était juste l'apocalypse.
C'est clair.
Et on est reparti pareil pour la semaine prochaine. Ouais, très bien. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des reviews, le début du mois de décembre. Et puis bien sûr, le mardi pour le Weekly News. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien.
Ouais, portez-vous bien. Salut les gens.
Salut tout le monde.
À bientôt.
Ciao, ciao.